Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
2 heures pour se détendre et apprendre aussi avec Mathieu Noël et Eva Rock, les journalistes de la rédaction d'Europe 1. Le week-end, on revit les moments marquants de la semaine passée. Alors l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition. Chacun des journalistes se surpassant pour convaincre et séduire les invités de Mathieu Noël grâce à leurs meilleurs sujets. Alors, parmi les invités, on va retrouver l'auteur du Chat du Rabbin, Johann Sfar, Vincent Delerme, de retour avec un nouvel album, Catherine Sellac également. Et puis, durant l'heure qui suit, des sujets passionnants à découvrir que vont nous dévoiler nos chroniqueurs compétiteurs comme Anne Le Gall qui a choisi de parler de la première centrale photovoltaïque flottante installée en France et dans le Vaucluse. Ève Roger du service société d'Europe 1 se demandera où sont passées les femmes de plus de 50 ans à la télévision et au cinéma. Mais c'est avec Mathieu Charrier que nous commençons en présence de Catherine Sellac.
Personnage fascinant, idole des enfants lorsque grimé en Superman, il leur préparait des flambis maison inoubliables.
5-4-3-2-1-0-5-4-3-2-1. Allez, on démoule.
Mathieu, cet après-midi, vous nous parlez de super-héros.
Je me déguisais
comme
plutôt
vous
en Spider-Man à l'époque.
C'est vrai, ouais. Vous avez des photos de ça? Quelques clichés qu'on pourrait mettre sur Europe1.fr peut-être pour que les auditeurs votent en connaissance de cause.
Ouais, ça.
Vous nous parlez des super-héros qui ont du plomb dans l'aile.
Oui, parce que depuis plusieurs jours, s'est déclenchée une guerre à Hollywood entre pro et anti-Marvel. Vous savez, Marvel, c'est ce studio racheté par Disney depuis, qui produit des films comme Avengers, Spider-Man, Thor, Iron Man, Les Gardiens de la Galaxie, etc. etc. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont ces films qui font le plus d'entrées au box-office. Si vous prenez là, juste sur l'année 2019, le top 5 des films qui ont fait le plus d'entrées en France, et bien vous retrouvez 2 films Marvel sur 5, c'est pas mal.
Et ça commence à énerver les réalisateurs historiques.
Ouais, le premier à s'être un peu emporté, c'est Martin Scorsese, qui est en ce moment en pleine tournée promo pour son prochain film, The Irishman, produit et diffusé au passage sur Netflix, il y a quand même mieux pour défendre le cinéma. Mais Marty, donc, s'est emporté dans une interview au magazine Empire, questionné justement sur ses films Marvel. Il a répondu, écoutez bien, je ne les regarde pas, j'ai essayé, vous savez, mais ce n'est pas du cinéma, ce sont des parcs d'attractions. Ce n'est pas du cinéma d'être humain cherchant à véhiculer des émotions ou des expériences psychologiques à d'autres humains. Fermez le banc. Alors évidemment, levée de bouclier dans l'écurie Marvel, vous avez Samuel L. Jackson notamment, qui incarne Nick Fury, qui a répondu « C'est comme de dire que Bugs Bunny n'est pas drôle, les films sont des films, tout le monde n'aime pas non plus son cinéma, ça s'est bien renvoyé. » Ou James Gunn, qui lui réalise notamment Les Gardiens de la Galaxie, il s'est dit « attristé qu'il juge maintenant mes films sans les avoir vus. »
Et comme si ça ne suffisait pas, Francis Ford Coppola lui-même s'est rangé du côté de Martin Scorsese.
Oui, alors qu'il était à Lyon ce week-end pour recevoir le prix Lumière dans le cadre du festival éponyme, le réalisateur notamment du Parrain ou d'Apocalypse Noir enchéri. Quand Martin Scorsese dit que les films Marvel ne sont pas du cinéma, il a raison, car on attend d'apprendre quelque chose du cinéma, on attend d'obtenir quelque chose, une sorte d'éclaircissement de l'esprit, de connaissance, d'inspiration. Martin était gentil quand il disait que ce n'est pas du cinéma. Moi, il ne l'a pas dit, mais moi je dis, c'est abject. Ambiance.
Et vous, personnellement, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez vous mouiller cet après-midi?
Oui, je vais vous dire que, comme souvent, la vérité est sans doute un peu au milieu.
Oh bah ça, c'est tout vous, Charrier.
Pourquoi? Non, mais les films Marvel, il faut savoir, quand même quasiment tournés uniquement.
Vous pouvez y aller, c'est pas des films européens.
Sur fond, ça dépend. Sur fond vert, sur fond vert, vous savez, il n'y a plus vraiment de jeu d'acteurs. Vous avez des acteurs qui sont bourrés de capteurs et ensuite tout est refait sur ordinateur. Donc, c'est vrai que c'est pas l'idée qu'on peut se faire du grand et beau cinéma devant la caméra. On parlait de Claude Lelouch tout à l'heure. Bon, après, il faut aussi reconnaître que ces films Marvel, je le disais, dans le top 5, vous en avez 2 en France. Ça veut dire qu'ils attirent du public, notamment un public jeune qui se déplace dans les salles, qui se forme à l'image, qui va au cinéma, qui paye une place. Donc pour ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça leur donne l'habitude, peut-être, de se rendre dans des salles de cinéma et après d'aller voir autre chose que des films Marvel. Et puis surtout, je vous rappelle qu'en France, on a quelque chose qui s'appelle la taxe sur chaque billet de cinéma
vendu.
Et ça
permet de financer des petits
films
français.
Et oui, le CNC prend de l'argent sur tous ces Marvel qui font des millions d'entrées. Ça permet de financer des films français qu'après, on est bien content d'aller voir. Donc voilà, c'est sans doute au milieu.
C'est difficile de se prononcer sur la question.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mathieu, qui adorez les films?
Ça dépend tout simplement de la définition qu'on prend du cinéma. Est-ce que c'est un divertissement ou un art? C'est un art, c'est clairement pas
artistique. Aujourd'hui, vous avez quand même tout un mouvement qui est engagé dans les salles de cinéma, ne serait-ce que celle qui est à côté d'Europe 1, au Pâté Beaugrenelle, où vous avez, c'est tout sauf du cinéma. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez des sièges qui s'inclinent dans tous les sens, vous avez de la 4DX, vous avez même maintenant, vous savez, des cinémas comme au Futuroscope là, qui bougent dans tous les sens.
Mais ça, par exemple, j'adore, mais c'est autre chose.
Mais c'est
un divertissement.
Et 14 euros le siège. Oui, c'est ça.
Minimum, Catherine. Je crois que c'est 16 euros pour
mais
la
c'est pour ça que ça, oui, mais en l'occurrence, ça, c'est plus un parc d'attractions que du cinéma. Et donc, un parc d'attractions, vous payez vos entrées 20, 30, 40 euros, c'est pas choquant. Après, le cinéma qui raconte une histoire avec une vision artistique des choses, c'est sans doute moins Marvel.
Catherine Sellac, vous avez déjà interviewé Coppola, Scorsese? Non, ça là, vous l'avez pas eu, mais je crois que vous avez réussi à interviewer, du moins furtivement, Woody Allen, c'est ça? Que veut dire ce
ouais. J'étais une sorte de paparazzi.
C'est vrai.
Ouais.
C'était quand ça?
Ça se passait à New York. C'était dans les années, je sais pas, 2000. Ouais. Et vous savez, il était au cabaret. Il est clarinettiste régulièrement en fait. Et donc moi, allant à New York, je voulais absolument avoir Woody Allen, la pauvre fille qui croit tout est possible, la petite française. Et donc j'avais un caméraman, donc il y avait deux entrées, deux sorties, donc il y en avait un qui s'est trouvé évidemment une sortie, moi je me suis trouvée à l'autre, j'ai vu qu'il y avait sa limousine qui était devant avec son chauffeur, donc je me suis dit il y a des grandes chances quand même qu'à un moment donné il sorte par là, et ça n'a pas tardé, il est sorti, donc je me suis précipitée, mais alors j'ai cru que je faisais un autre métier là, hein. Et là, je lui ai demandé, en plus je parle très très mal anglais, donc je me suis permis de lui parler en français, comme quand même il comprend, je lui ai demandé comment ça s'était passé au cours de la soirée, qu'est-ce qu'il pensait, parce que c'était au moment des élections Obama, et il m'a dit je suis démocrate et je le serai toute ma vie, et embrasser la France. Et alors je me suis dit, ça y est, c'est mon scoop. Mais j'en suis encore très fière et je vous le raconte aujourd'hui avec une certaine fierté.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, notre culture générale s'étoffe. On le retrouve entouré de sa complice Eva Rock et d'un invité, en l'occurrence ici, l'auteur, compositeur, interprète et désormais réalisateur, Vincent Delerme.
Aujourd'hui, c'est Vincent Delerme qui nous accompagne pour la sortie de son nouvel album Panorama et de son film Je ne sais pas si c'est tout le monde, qui est le dernier film de celui qui nous a quittés il y a quasiment pile 2 ans et qui est avec Vincent notre idole commune. Il a accepté de tourner avec vous. Moi, quand je lui ai proposé, il m'avait répondu assez sèchement.
J'ai tourné avec les plus grands. C'est pas pour trôner avec les plus petits.
Dans votre film, il y a Jean Rochefort et mieux, Vincent Delerme, c'est Jean Rochefort qui vous a poussé à faire votre film, j'ai lu ça.
Bon, en tout cas, c'était quelque chose, je pense, qu'il disait régulièrement aux gens qui croisaient, qui ne faisaient pas de cinéma, il leur disait, il faudrait que vous fassiez un film, parce que lui était très joueur, donc il comprenait, dès qu'il aimait bien quelqu'un, il lui disait ça, mais j'avais pris ça très personnellement, et puis quand j'ai commencé à écrire ce film, justement, il avait annoncé qu'il arrêtait. Je lui ai quand même dit, Jean, on en avait parlé souvent et tout ça, donc est-ce que vous voulez lire le scénario? Et puis il m'a rappelé pour me dire qu'il voulait bien refaire une journée et que ce soit sa dernière journée. Donc on savait quand il est venu que ce serait son dernier jour de tournage, donc forcément c'était émouvant.
C'était quelqu'un que vous admiriez tout simplement ou c'était quelqu'un que vous connaissiez dans la vie? Vous disiez tout à l'heure Agnès Varda, que vous avez une chanson sur Agnès Varda dans votre album, donc on imaginait tous que vous étiez, je sais pas, un pote avec Agnès Varda, et vous dites que vous l'avez rencontrée juste une fois finalement.
Ouais, et presque pas, c'était ça, vraiment 5-10 minutes, ouais. Non, je la connaissais vraiment pas, Agnès Varda.
Et Jean Rochefort?
Jean, c'est différent parce que je lui avais écrit une lettre pour lui demander de jouer dans un clip sur un disque en 2006, et je lui avais dit voilà, ça consiste à mettre une chemise hawaïenne, des tongs, jouer des maracas, et hop, banco. Il avait dit oui, et c'était vraiment sa tournure d'esprit aussi d'être comme ça. Il disait toujours on prend pas de risques à prendre des risques, donc c'était une jolie phrase. Et puis après on a fait pas mal de choses ensemble, il est venu chanter dans des spectacles, on a fait d'autres projets, mais il y avait toujours cette histoire de film. Et c'est drôle parce que la musique de lancement que vous aviez là, c'est une musique du Magnifique,
oui.
et il était très fan du cinéma de Philippe de Broca, il avait une grande tendresse pour ça, pour ce cinéma un peu plutôt fantaisiste, mais avec toujours un peu de poésie aussi quelque part.
En 2012, vous aviez fait un spectacle moitié musical, moitié théâtre, Memory, dans lequel vous avez glissé un enregistrement original de Woody Allen qu'il avait fait pour vous. C'est un personnage qui aujourd'hui sent un peu le souffre, Woody Allen. Est-ce que ça vous chagrine? Est-ce que vous le voyez différemment ou pas?
Ah bah oui, toujours les gens comme ça qu'on a pu aimer, on n'a pas envie de changer de regard sur eux, donc c'est très particulier. En plus, il y a deux niveaux, il y a tous les films qu'on a aimés avant de savoir, et puis il y a ceux qui sont à venir, ceux-là ils sont un peu plus difficiles évidemment à suivre, mais ceux que j'ai aimés plus jeunes, ça change pas grand-chose parce que je les ressens toujours un peu de la même manière.
Mais c'est l'éternelle question qui se pose aussi pour Michael Jackson. Est-ce qu'on peut distinguer l'artiste de l'homme finalement? Est-ce que ça gâche pas l'œuvre, les agissements, ou en tout cas les agissements qu'on leur prête?
Bah si, ça change des choses, surtout quand c'est des gens qui ont une très forte personnalité et qu'on aime beaucoup pour cette personnalité-là et pour une identité. Si c'était juste quelqu'un qui balance du son avec des boucles préenregistrées, ça serait un peu abstrait, on pourrait se dire que ça change pas grand-chose, mais quand on est très fan de la tournure d'esprit de la manière de parler des gens, des relations amoureuses, forcément ça bouge des lignes un peu.
Eva ?
J'ai cru comprendre que votre film était inspiré d'un autre film de 1960 que j'avais vu, Chronique d'un été, qui était signé Jean Rouch et Edgar Morin. C'était une série de rencontres avec des Français donc à l'été 60, qui racontaient leur rapport au travail, à l'amour. Puis il y avait une question qui revenait en fil rouge, qui était « Êtes-vous heureux ?» Je me suis demandé si vous, vous étiez heureux, Vincent Delerme.
Ouais, je suis assez. Ouais, j'ai toujours été. C'est assez curieux parce que les gens des fois peuvent penser que j'ai.
On vous voit mélancolique.
Oui, oui, mais c'est possible parce que ça vient de des mélodies, de mes chansons et tout ça. Mais moi, j'ai toujours fait des spectacles, par exemple, qui sont très tournés vers l'idée que. Que voilà, l'idée c'est quand les gens ressortent de la salle, qu'ils se sentent encore plus en vie que quand ils sont rentrés. Et en fait, quand j'ai commencé, je savais que mes chansons étaient assez positives. Mais en France, c'est un peu. Quand on est trop positif, on passe un peu pour un con. Donc, je me suis mal rasé. J'avais un peu cette attitude nonchalante pour pas trop me faire épingler parce qu'on passe un peu pour le ravi de la crèche. On est trop. Mais moi, ce que je défends en général, c'est plutôt une vision de la vie qui est assez vivante. Et voilà.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Voici l'heure du quiz. Qui veut gagner un mug Evarock ? Cher Vincent Delerme, tous les jours nous proposons un quiz thématique à notre invité. Aujourd'hui, nous voulons faire un quiz musical pour rendre hommage à votre dextérité au piano. Vous êtes opposé à Eva, on va écouter des tubes connus, mais difficilement identifiables car joués exclusivement au piano. Si vous l'avez, vous levez la main. Vous ne criez pas, vous levez d'abord la main. Attention, c'est parti. Je ne vois pas de main qui se lève.
Si, c'est ma main.
Eva Rock.
C'est ma main.
C'est votre main. Vous
c'est Gainsbourg.
C'est Gainsbourg. Non. Je ne crois pas que ça soit Gainsbourg. Non, c'est... Vincent Delerme.
Non, mais c'est un tube international, c'est pas un truc français.
Ah non. C'est un tube international, ça c'est sûr. On l'écoute.
Ah oui. Ah ouais.
Là, vous le trouvez quand vous entendez la version originale
non,
ou pas?
Non, mais même pas, je connais
je
pas.
Je le passe un jour sur deux. Quand ben je dois oui, introduire mais... un moment érotique.
Ben oui, mais je me souviens pas du titre.
Careless Whisper, ah oui. Wham.
Ah oui. Wham.
Et le regretté George Michael.
Mais oui,
c'est et vrai. Oui, et oui, et oui, les amis. Deuxième extrait, attention, soyez meilleurs.
Serge Gainsbourg.
Ah oui.
Ça aussi, tube c'est international. C'est très récent.
C'est très récent.
Enfin, 2-3 ans.
Carly Rae Jepsen, non, c'est pas ça
Non, ce n'est pas ça.
J'ai terminé une chanson, mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Qui chante.
Ça a un nom pourtant étonnant. C'est un tube. Dans le public, vous avez retrouvé.
C'est une fille qui chante.
Qui a retrouvé? Sia. Comment vous appelez, mademoiselle?
Amélie
remporte un point. Bravo. C'est la première fois que quelqu'un dans le public va remporter un point. Elle est à deux doigts du mug et baroque. Vous continuez de jouer, Amélie. Chandelier, ça s'appelle ça.
Chandelier.
Oui, chandelier, mais moi je dis chandelier. On est en France, madame. Extrait numéro 3. Attention, alors là, c'est facile. Soyez bon.
Ah. Bah, il a levé la main, Vincent.
Vincent Delerme.
Madonna.
Madonna,
ah ouais.
Like a Virgin. J'ai bien aimé cette reprise piano. Mm-hmm. Je vais la mettre sur la playlist. Attention, extrait numéro 4. Alors ça, en piano, j'avoue que je ne sais pas ce que ça peut donner. J'ai la réponse sous les yeux, je ne trouve pas.
Comment vous pouvez ne pas répondre sans avec la réponse sous les yeux?
Non mais moi je ne joue pas, je vous dis que même je ne trouverai pas là.
Ah!
Est-ce que vous n'êtes pas trompé en régie? C'est impossible.
Ah oui.
Ah bon? Vincent Delerme? Incroyable!
Happy!
De Pharrell Williams, magnifique. Ah effectivement, là on a l'oreille absolue avec nous aujourd'hui en studio, Vincent Delerme. Dernier extrait, ça va vous départager pour l'instant.
Bah, rien de partager, de rien du tout, oui.
Ça va être simple, ça se joue entre Amélie et Vincent Delerme. Eva est complètement hors concours.
Mais non, il a mis deux points déjà,
Il a mis deux points,
Vincent.
C'est vrai, mais Amélie peut le rattraper sur la dernière question. Attention, c'est parti. Amélie, pas d'idée? C'est dur, hein? Vincent?
Je vois pas.
Est-ce que vous avez pas le don de l'artiste? Parce que moi, par exemple, j'avais oublié le nom de la chanson. Le nom de l'artiste.
Ah non, j'ai rien du tout, là.
Michael Jackson. Human.
Mais oui.
Ah oui!
Ah! Et oui! C'était pas mal ce petit quiz piano.
Ah non, j'étais ridicule.
C'était difficile. Pour une fois qu'on a un quiz difficile.
Merci, Vincent.
C'est le principe de ce quiz, Eva. Et pour une fois, il était dur. Eve, aujourd'hui, vous êtes colère.
Eh bien oui, parce que
je voulais vous parler de cette invisibilité des femmes depuis 50 ans. Et en fait, le déclic a été la citation de Yann Wax. Vous vous souvenez, l'année dernière, dans Marie-Claire, il disait « Le corps d'une femme de 50 ans n'a rien d'extraordinaire du tout. Elles sont invisibles. » Et voilà, le mot est prononcé, l'invisibilité. Et Yann Wax, alors qu'il parlait d'une préférence intime et sexuelle, a touché sans le vouloir du doigt un phénomène de société dont peu de gens ont conscience. Cette invisibilité des femmes de plus de 50 ans a commencé par le cinéma.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'invisibilité au cinéma ?
Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on ne voit pas ou peu de femmes de plus de 50 ans dans les films français. Alors ne me parlez pas d'Isabelle Adjani ou de Isabelle Huppert ou Agnès Jaoui, ce sont les arbres qui cachent la forêt. Les chiffres sont implacables. 6% seulement des rôles distribués au cinéma en 2016 concernent des femmes de plus de 50 ans. 6%. Et c'est une association de comédiennes qui a mis le sujet sur le tapis avec un manifeste qui s'appelle, tenez-vous bien, le tunnel de la comédienne de 50 ans. Alors, pourquoi le tunnel ?
Mais vous savez qu'il n'y a que moi qui ai le droit de jouer avec des effets sonores, hein, Roger. Sinon, c'est des points en moins.
Hein. Pourtant, ça attend un truc drôle, ça ne l'est pas du tout.
Détail, vous êtes dégueulasse.
Non, parce qu'il est jaloux. Alors, pourquoi le tunnel ? Parce que les héroïnes, la plupart du temps, poussent jusqu'à 45 ans maximum dans des rôles glamour, de femme ou de maîtresse, d'épouse ou de mère. Mais arrivées à la cinquantaine, elles disparaissent dans le tunnel et n'en ressortent que bien plus tard, et encore pas toujours, une fois la ménopause passée, dans le rôle de gentille
grand-mère.
Absolument, de grand-mère. Alors soit vous avez Poupette dans la boum, soit vous avez Tati Daniel, ou alors des malades en fin de vie, Alzheimer, cancer généralisé, enfin c'est au choix. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vaut dans les rôles principaux, vaut aussi dans les rôles dits fonctionnels ou satellites, c'est-à-dire que le chef de service à l'hôpital, le commissaire de police, le chef d'orchestre ou le patron PME, ben, ce sont toujours des hommes, alors que dans la vraie vie, il y a aussi des femmes, et que ça ne change rien au scénario que ces rôles-là soient tenus par des femmes. Alors il a fallu que je cherche longtemps un film pour voir s'il y avait une petite évolution, et j'ai trouvé dans le prochain film de Martin Provost, celui, vous savez, qui a fait Séraphine.
Ah oui, c'était bien,
il a mis une brochette de quinca, Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky, mais ça c'est pour février 2020.
Et cette invisibilité dont vous nous parlez, ça vaut dans d'autres secteurs que le cinéma aujourd'hui ?
Bah, hélas oui, et là c'est un site d'information dont j'adore le nom, qui pointe cette invisibilité, ça s'appelle J'ai piscine avec Simone.
Encore un son ! Elle a encore mis un son ! Elle jongle avec les sons, quel talent !
Mais la Simone avec laquelle on va se jeter dans le grand bas des quinquas, pour la fondatrice du site Sophie Dancourt, ce n'est pas n'importe qui, c'est Simone Veil ou Simone de Beauvoir. Et là, sur le site, elle montre que ce phénomène vaut pour tout, pour l'industrie de la mode et de la beauté, alors que les femmes de 50 ans ont un énorme pouvoir d'achat, ont très envie de consommer. Ça vaut à la télévision, ça vaut dans les start-up où on voit très très peu de femmes.
Mais pourquoi les femmes de 50 ans disparaissent des écrans radars comme ça ?
Eh bien, parce que notre société vit encore, sans doute inconsciemment, avec cette idée qu'à partir de 50 ans, eh ben une femme, ça ne sert plus à rien. Elle ne peut plus avoir d'enfants, elle n'a plus de fonction sociale. Donc. Et je terminerai avec Françoise Héritier, la célèbre anthropologue, qui parle, elle, de pensée archaïque et montre qu'une femme est encore dans notre société considérée comme une marmite. Quand la marmite est usée, dit-elle, on la jette et on en prend une plus jeune.
Oh mais c'est affreux. Mais on a l'impression, mais tout horrible. Le monde ne pense pas comme Yann Moix, on a l'impression d'entendre...
Non, mais
là, sauf que ce qu'elle donne comme info, pas... c'est que c'est factuel.
Ah, c'est factuel, oui, mais c'est désolant. Gatrine Sellac.
Alors, moi, j'ai la chance d'être membre d'une association qui s'appelle Over 50. Et alors, cet été, au mois de juin, dans la galerie Vivienne, à l'initiative de Nathalie Garçon, la styliste, on a fait un grand défilé.
Ah oui.
On était 60 femmes,
dont Julie d'Europe.
Ah, il y avait Julie d'Europe.
Absolument. Et il y avait Sandrine Bonner, il y avait Chantal Latsou. Et on a été habillées par des créateurs et on a défilé. Et ça a été un moment de complicité incroyable. On était super belles, on était épanouies et on voulait simplement dire, et on va recommencer chaque année, on va développer, on va faire venir aussi des femmes pas connues qui vont venir en fait créer ce mouvement de fond, une sorte de lame de fond. Et pour ce que vous venez de dire, Ève, c'est-à-dire d'abord dire que la moitié de la population féminine a plus de 50 ans, faut quand même pas oublier ça, et puis qu'on a un pouvoir d'achat important. Donc les industriels, notamment de la mode, les cosmétiques, arrêtez quoi de nous montrer des filles qui ont 18 ans et qui sont anorexiques. Hein. On peut avoir 50 ans et plus, et je pense qu'on peut être super belle, épanouie, bien dans notre corps et bien dans notre tête. Et ça, il faut absolument que maintenant, les gens, les financiers, même les rédacteurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les rédactrices en chef de journaux.
Elles ces femmes-là.
Mais bien sûr qu'elles s'autocensurent. Mais bien sûr, évidemment. Mais n'oublions pas aussi que qui aujourd'hui a le pouvoir de la presse, ce sont des hommes. Donc il faut faire changer peu à peu le modèle aussi économique. Il faut que les femmes elles prennent le pouvoir économique pour faire changer la société.
Avec elle, les stars tombent le masque dans son dernier livre « À l'amour, à la vie » chez Flammarion. Catherine Sellac passe l'après-midi sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
De la bonne humeur et plein d'infos dans l'équipe est sauvage de Mathieu Noël qu'on va retrouver et bien sûr tout de suite avec à ses côtés Eva Rock, sa grande complice et puis un invité, il y a toujours un invité ici, c'est Johan Sfar, il publie aux éditions Poisson Pilote le 9e tome de sa BD à succès Le Chat du Rabbin.
Johan Sfar, phénomène de l'édition BD française depuis près de 20 ans maintenant, 20 ans on peut le dire.
Oh oui, même un peu plus.
Hein. Oh, même un peu plus. Mais qui est pour vous, Johan Sfar? On vous a posé la question. Voici, non pas un micro-trottoir, toujours monté pour mettre en valeur l'invité, mais un micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on n'a rien coupé. On balance tout en vrac.
Johan Sfar, pardon. Ah, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais en tous les cas, il fait des jolies choses et il dessine très bien.
Mais le chat du rabbin, mais c'est plein d'humour, c'est intelligent, c'est fin.
Ah, il aime les chats, trop mignon.
Dessinateur? Bah après, il a été réalisateur et les autres métiers, je les connais pas.
Bah, c'était plutôt bien son film, le film Gainsbourg de Johan Sfar. Ouais, je l'ai vu, enfin je l'ai vu en accéléré, parce que j'ai pas eu le temps de le regarder en détail. C'est plutôt pas mal, surtout Laetitia Casta.
Ah si, il est dans, j'ai en train de le lire à l'école en plus, le petit vampire.
Johan Sfar, oui, je connais, je l'aime beaucoup, Johan Sfar.
Ah oui, pardon. Ah oui, si, ça y est.
C'est le chat du rabbin. J'ai acheté le 1 et le 2, donc voilà, je vous promets, j'irai acheter au moins le 3.
Au moins le 3, déjà bien.
Ça c'est pas très méchant quand même.
Ah non, mais c'est pas très méchant, mais les gens vous aiment, on a l'impression. On a
c'est parce qu'ils me connaissent pas.
Dévoilez-vous enfin, Johan Sfar. Vous n'aimez pas qu'on revienne sur votre côté production frénétique, mais normalement, j'ai lu qu'il fallait un an pour faire un album. Vous en avez sorti déjà 150. Vous avez quel âge exactement?
Bah, si j'étais japonais, on dirait que je dessine plutôt doucement. Enfin, je pense.
C'est vrai, une production
ça
plus élevée.
Ce qu'on fait comme bande dessinée, pour moi, la bande dessinée, ça doit être vraiment du roman popu. Il faut qu'il y ait la suite, il faut raconter l'histoire, il faut qu'il y en ait beaucoup. Moi, je lis de manière très gourmande, donc
vous écrivez pareil.
J'écris comme je lis.
Et peut-être votre dessin, je me rends pas compte parce que j'y connais rien en BD. On a un expert BD parce qu'il faut savoir que Mathieu Charrier, l'expert cinéma et BD d'Europe 1, hein, il a les deux casquettes.
Vous voulez que je fasse une analyse du dessin de Johan Sfar face à lui?
Exactement. Ça va être facile, face à lui. Mais oui, j'aimerais. Non, mais parce que par exemple, moi, je m'y connais pas vraiment en BD. J'aime ça, mais j'ai pas de culture.
En fait,
la ligne. La ligne claire. J'avais compris ce que c'était.
Non, mais c'est juste que ça dépend des auteurs. C'est comme tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont mettre des semaines entières à dessiner une planche de bande dessinée, et il y en a qui en une demi-heure, une fois qu'ils ont l'idée, griffouille, vous savez, moi, pour faire la chronique bande dessinée, je leur demande après de faire un petit dessin qu'on met sur les réseaux sociaux. Mmh. Et vous vous rendez compte, c'est assez amusant que chaque dessinateur, il y en a en une minute, ils vous font un dessin incroyable. Et il y en a d'autres qui vont mettre, je me rappelle d'Hugo Bienvenu par exemple, qui dessine en tout petit et qui a mis peut-être 10 minutes à faire un tout petit dessin. Qui m'a dit, moi, je suis très très lent. Donc
c'est les auteurs suisses, ça. Zep aussi, il est un petit peu plus lent, hein, je crois.
Donc ça dépend vraiment de l'auteur, quoi.
On en parlait justement avec Zep, le papa de Titeuf, ici même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux jeunes dessinateurs de BD qui nous écoutent, vas-y, fonce avec du talent et du travail, tu peux avoir une carrière comme la mienne? Ou bien, vous estimez comme Zep, ce qu'il nous disait, vous êtes arrivé à un moment charnière de la BD où c'était déjà reconnu, mais pas encore comme aujourd'hui, il n'y avait peut-être pas autant de concurrence. Aujourd'hui, comment on fait pour se forger un nom quand on va dans n'importe quel magasin de bande dessinée? Il y a tellement de choix, tellement de BD qui ont l'air en plus excellentes. Comment on devient?
Oui, alors ce que disait Sempé ou ce que disait Fred, c'est que ce métier n'a jamais existé. Ça n'a jamais été facile de vivre. Alors avec des difficultés qui changent. Moi, quand j'ai commencé, c'était très difficile de se faire publier, mais il n'y avait que 300 BD par an. Donc quand on était publié, on pouvait considérer qu'on était professionnel. Aujourd'hui, il se publie 5000 albums par an. Ça veut dire qu'un auteur qui publie et qui publie même depuis longtemps, en général, ne réussit pas à en vivre. Plus de 40% des auteurs sont en dessous du seuil de pauvreté, vivent grâce à leur conjoint. Et il y a eu beaucoup de protection du monde du livre depuis une trentaine d'années, mais aucune protection des auteurs. Et c'est un sujet qui est en train d'être pris à bras-le-corps par la Ligue des auteurs qui a été créée il y a un an. Et les pouvoirs publics commencent à nous écouter un peu.
Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que vous aviez poussé un gros coup de gueule l'an dernier. C'était à peu près au mois de juin, si je ne me trompe pas. Vous n'étiez pas le seul, mais c'est vrai qu'on vous avait... On vous avait beaucoup entendu sur cette protection des auteurs. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Est-ce que ça avance un petit peu?
Entendu, oui, mais c'est un sujet très complexe, donc il n'y a pas de mauvaise volonté. J'ai la chance d'être prof aux Beaux-Arts depuis 4 ans. J'enseigne les bandes dessinées, entre autres, et j'ai envie que mes élèves puissent se dire qu'un jour, ça pourra être un métier. Il faut sanctuariser ce métier-là.
2020 sera l'année de la bande dessinée, selon les pouvoirs publics. En tout cas, c'est décrété année de la bande dessinée. Donc
bon, alors ça, je pense que ça nous sauve.
C'est bon, alors tout est réglé. Tous les problèmes. C'est comme le conflit arabo-musulman. Tout ça, c'est solutionné.
Il n'y a aucun affichage.
Alors maintenant, c'est la Midinette qui parle. Elle parle souvent dans cette émission, c'est vrai. Mais moi, j'ai fait partie des gens qui ont adoré votre film Gainsbourg, vie héroïque. Et je crois me souvenir à l'époque, je n'ai pas retrouvé la citation, mais je vous avais croisé dans une autre émission à l'époque, je crois avoir lu que vous disiez que vous-même, vous n'étiez pas tout à fait satisfait du film, que voilà, machin. Et je me dis, c'est incroyable, un réalisateur qui fait un film aussi fort que son premier film. Non, vous aviez une petite réserve sur le film, non ?
Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que sur la fin, je voulais mettre de plus en plus de monstres. Et on m'a dit, non, t'es bien obligé de leur montrer le Gainsbourg qu'ils connaissent. Donc il a fallu, parce qu'au bout d'un moment, sinon ça s'appelait Dark Crystal. Donc c'est tout. Non, mais je suis très content.
Vous êtes fier de ce film quand même ?
Ah bah c'est la chose qui m'a rendu le plus heureux depuis que je suis sur Terre. Enfin, parce qu'être enfermé chez soi avec des crayons ou passer sa journée avec Laetitia Casta, il y a des moments où c'est mieux de faire un film.
Et le prochain, alors, c'est quand ?
Oh, y a plein de trucs. Il y a le dessin animé de Petit Vampire qui sort probablement pour Halloween prochain. Et alors voilà, j'ai un film sur le cambriolage de Kim Kardashian.
Ah, j'ai
Paris.
Vu ça.
Non, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai. Cette femme la plus puissante du monde qui se retrouve en situation de faiblesse extrême parce qu'elle subit une agression toute bête dans son hôtel. Je me dis, c'est tellement tragique que c'est un sujet de comédie. Donc je suis
mais donc
de
vous en faites
là-dessus.
Une bande dessinée et cette bande dessinée sera adaptée à l'écran ou...
Moi j'écris toujours d'abord sous forme de bande dessinée, c'est ce que j'avais fait sur le Gainsbourg. Donc je vais sortir en mars un livre qui s'appelle Fashion Week qui raconte ce cambriolage mais revu par moi, donc tout est inventé évidemment. Et j'aimerais en faire un film et j'aimerais représenter une idole d'aujourd'hui dans probablement ce qui a été un des pires jours de sa vie.
Combien vous vendez de Chat du Rabbin à chaque fois ? J'ai l'impression de le voir partout.
Mais non, mais j'en sais rien. Vraiment beaucoup moins qu'Astérix, voilà.
Oh, okay. Modestie. Vous regardez pas les chiffres.
Je
sais
que mais bien sûr que je les regarde, je suis super stressé. Depuis que ça existe, je crois qu'on en a vendu 2 millions. Et à chaque fois qu'il y en a un nouveau, je crois qu'ils vont à peu près à 100 000 exemplaires et que ça fait revendre à peu près 10 000 de chacun de ceux d'avant.
Voilà,
ça
c'est
va. Vous l'avez tout précis, vous l'avez.
Ah bah, effectivement.
C'est-à-dire beaucoup moins qu'Astérix.
Vous m'avez mouché. C'est beaucoup moins qu'Astérix.
Vous n'imaginez pas.
À votre avis, Astérix, ça sort à combien d'exemplaires ?
À chaque fois qu'un Astérix sort, peut-être.
Depuis qu'on parle, 1 million.
Non, mais peut-être en tout, 1 million.
Ça y est, 2 millions.
Non, Astérix, en France, il est tiré à 2 millions d'exemplaires. Ils en ont 1 600 000, 1 700 000, 1 800
000. Ah oui, c'est.
Donc... À chaque fois que vous avez Astérix qui sort, c'est le plus gros succès de toute l'édition de l'année.
Alors. Bande dessinée, cinéma, on connaît tous vos talents, Johan Sfar. J'ai envie de vous parler des séries. Il paraît que les séries, vous les écoutez. C'est-à-dire que vous ne regardez pas l'écran, vous dessinez et vous écoutez des séries. C'est vrai cette information ?
D'abord, ça me fait progresser en anglais. Et ensuite, ça. Bah oui, parce que je dessine toute la journée. Mais ça me fait comme des dramatiques radio. Mais en fait, les séries, c'est écrit comme les dramatiques radio de l'époque du Radio Days de Woody Allen. En ce moment, j'écoute Miss Maisel, qui est à mes yeux la plus belle série depuis Mad Men. Oui, oui, ça s'écoute. Sauf. Alors, Walking Dead, c'est compliqué.
Oui.
Walking Dead, c'est compliqué parce que. Et je tiens à passer un petit message de téléspectateurs mécontents. Le maquillage des zombies, c'est devenu n'importe quoi dans Walking Dead. Il y a 4-5 saisons, ils étaient formidable, mais vraiment formidable. Aujourd'hui, on dirait juste moi le matin. Il y a un laisser-aller dans le maquillage des monstres de Walking Dead. Donc du coup, j'écoute. Quoi.
Le message est passé.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Le rendez-vous, bonne humeur de vos après-midi, c'est l'équipe est sauvage sur Europe 1 avec Mathieu Noël, Eva Rock, et puis les journalistes d'Europe 1, les invités également. Et dans l'équipe est sauvage, on aime bien manger. Hein, une recette facile et pas chère, c'est délice in extremis. Et quand on parle gastronomie, eh bien Olivier Pouls n'est jamais loin.
Ici, on a faim assez tôt. Surtout Eva, qui dès 6h moins le quart, hurle souvent. Dans ces cas-là, comme à part son bol de farine, elle n'a pas le commencement du début d'une idée, on appelle Olivier Pouls pour Délice in Extremis. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu.
Aujourd'hui dans Délice in Extremis, vous avez décidé de travailler la Saint-Jacques, c'est-à-dire en fait la seule chose que je n'aime pas.
Je me demande
si vous foutez de ma gueule ou pas.
Mais je ne sais pas si je vous inviterai encore surtout. C'est bien ça. Je me fais fort peut-être de vous convaincre.
Je suis sûr qu'avec vous je vais aimer.
Et de vous la faire aimer. Alors la Saint-Jacques c'est un produit magnifique, c'est un produit d'hiver, la pêche autorisée
avec
a commencé.
Avec un drôle de goût cela dit.
Non, pas du tout. La pêche a été autorisée, l'ouverture de la pêche a commencé il y a quelques semaines seulement sur nos côtes françaises et elle va se terminer aux alentours de la fin du mois d'avril, parce qu'on est malin en France, en tout cas on est pragmatique, et on ferme la pêche durant la période estivale, pendant la période de reproduction, pour justement préserver nos ressources. Et il faut rendre hommage aux autorités françaises qui protègent la Saint-Jacques, ce que ne font pas, par exemple, les Anglais qui pêchent toute l'année, et ça c'est lamentable.
Salaud de Rosby. Je traduis pour nos auditeurs la pensée complexe et peu diplomatique d'Olivier Pouls.
Donc, nos Saint-Jacques que nous avons là, et qui sont magnifiques, on pense que c'est très cher la Saint-Jacques, ça reste un crustacé abordable. Si on l'achète bien, moi j'en trouve au marché, à Paris, c'est dire, c'est quand même pas l'endroit le meilleur marché de France, autour de 6 euros le kilo. Alors le kilo avec les coquilles, une fois qu'on a décoquillé les Saint-Jacques, avec un kilo et demi pour deux personnes, il y a un plat entier à manger. La Saint-Jacques, il y a deux manières de la faire. On la cuit ou on la mange crue. Je vais vous proposer crue aujourd'hui, ce qui nous donnera peut-être une autre chronique pour une autre semaine.
Bien joué.
Voilà. Donc, en carpaccio, taillé fin, mais pas trop, pour garder un petit peu de mâche. Et là, il faut être très subtil dans l'assaisonnement. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu d'huile d'olive, mais vraiment très peu, pour ne pas masquer la Saint-Jacques, parce que son goût délicieux, justement, mon cher Mathieu, est très subtil.
Oui, moi, je mettrais beaucoup d'huile d'olive.
Un petit peu de fleur de sel. Je râpe un tout petit peu de parmesan et un fin trait de filet de citron. Ça, c'est une recette qui marche de manière hyper efficace. Mais alors, j'en ai une autre que je m'attribue d'ailleurs, parce que je pense être l'inventeur de cette association diabolique.
C'est la Saint-Jacques Pouls.
Non, oui, on pourrait l'appeler comme ça. C'est simplement une Saint-Jacques crue, un morceau de Saint-Jacques crue, ou la couper, mais vraiment en deux, là, pour vraiment garder de l'épaisseur, et vous posez dessus un petit morceau d'anchois. Et je vous garantis que l'association...
Comme ça, on a la combinaison Saint-Jacques, des deux trucs que je déteste le plus.
Ah, non, mais moi, j'adore.
C'est magique, c'est une explosion de saveur en bouche.
Peut-être
les
que moins
deux
et moins font plus, peut-être que pour moi,
ben
ça va me plaire.
Voilà, venez à la maison, je vous fais ça.
Rien. À la maison. Il y a le printemps.
Je vous émincerai des Saint-Jacques et je vous poserai des petits morceaux d'anchois dessus et vous verrez, vous serez conquis. Et puis il y aura évidemment le vin blanc qui va avec.
On dirait presque
pas.
Le dialogue d'un mauvais film érotique.
Oui, c'est vrai.
C'était Olivier Pouls pour Délices in Extremis. Olivier Pouls que vous retrouvez chez Laurent Mariotte chaque samedi à 11h sur Europe 1 dans la table des bons vivants. Merci Olivier.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Il est 16h44 et soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez, oui, l'équipe est sauvage avec Mathieu Noël, sa grande complice Eva Rock. Il y a toujours un invité. On va retrouver l'ancienne animatrice de l'ancienne émission Théo Café, Catherine Sellac.
Voici Anne Le Gall.
La pollution, ce n'est pas bon.
Anne, qui a donné un message très fort pour nous et pour l'ensemble de la société. Anne, à l'occasion de l'inauguration de la première centrale solaire flottante, parce que c'est, on fait un point avec vous sur l'énergie solaire.
Voilà, je vous emmène dans la commune de Piolenc. Déjà, Piolenc était jusqu'ici connu pour sa fête à l'ail au mois d'août. Désormais, l'autre attraction, ce sont les 47 000 panneaux solaires qui flottent sur un lac artificiel.
47 000.
Il faut imaginer en miroir la surface d'une vingtaine de terrains de foot.
Il faut surtout imaginer les couples qui faisaient de la barque romantique sur ce lac et qui maintenant ont des putains de panneaux solaires partout et ça casse tout le romantisme.
En fait, le lac n'a jamais servi de base de loisirs et d'ailleurs, il ne pouvait pas te servir de base de loisirs puisque les rives, les berges sont dangereuse, c'est une ancienne carrière qui
d'accord,
s'est remplie d'eau. Et donc, le maire, justement, ne pouvait rien faire de ce lac. Louis Driet, donc ce maire, a eu l'idée, il y a 10 ans, d'utiliser cette surface inoccupée pour poser des panneaux solaires sur des flotteurs. C'était il y a 10 ans. Le projet a mis du temps à se concrétiser, mais ça y est, la centrale a été inaugurée vendredi dernier. Le projet a été réalisé par Bouygues Énergie et le producteur d'énergie vert Aquo. Et donc, cette centrale peut désormais fournir de l'électricité à 10 000 personnes. C'est deux fois la population de cette commune. Et donc, les habitants vont pouvoir bénéficier d'une électricité verte 10% moins chère.
Mais d'accord, c'est une première en France, mais c'est quoi l'intérêt d'installer des panneaux solaires sur l'eau ?
Alors déjà, les panneaux sont rafraîchis en continu. Donc, ils sont plus efficaces. Ça fait 5 à 10% de rendement en plus. En plus, c'est un gain de place puisqu'on évite d'utiliser des surfaces agricoles, des terrains constructibles pour poser ces panneaux solaires.
Ouais.
Et ça tombe bien parce que des plans d'eau comme celui de Piolenc, on en a énormément en France. Il y a énormément de carrières qui ont servi pour prélever du sable, pour construire des routes, des tunnels, etc. Et si on couvrait ces plans d'eau inutilisés par des panneaux solaires, on pourrait fournir 10 gigawatts d'électricité. C'est autant que 10 réacteurs nucléaires. Et donc, ça permettrait d'alimenter en électricité. Ça va se faire. 3 millions de foyers. Alors, donc, il y a des projets qui se mettent en place en France, en Chine, au Japon, en Inde et en Australie. Il y a aussi énormément de projets qui se mettent en place sur le solaire flottant. Il y a 150 projets de ce type dans le monde.
Et sinon, pour les auditeurs qui voudraient tout simplement installer des panneaux sur leur toit, l'énergie solaire, c'est vraiment intéressant?
Alors, évidemment, ça dépend du soleil, mais vous parliez du toit d'Europe 1. Alors, j'ai regardé.
Oui.
Si on pose des panneaux solaires sur le toit d'Europe 1, alors pour chauffer pas que le public, pour chauffer l'intérieur,
oui,
éclairer
le
bâtiment, eh bien on ferait plus de 660 euros d'économie sur la facture d'électricité.
Qui pourrait être directement répercutée sur le salaire des Varocs.
C'est une bonne idée. Ça.
C'est
une
lueur d'espoir.
Là,
réglez
ça avec la chronique d'avance. C'est 716 euros le budget, tout
exactement,
ça.
Exactement,
voilà.
Elle était tous en vacances.
Ouais. Donc ça se calcule sur le site d'Engie. Hein. 30 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit d'Europe 1, c'est 600 euros d'électricité économisée. Pour une installation aujourd'hui, il faut compter 10 à 12 000 euros pour un particulier. L'installation va durer
10 à 12 000 euros, mais il n'y a pas un crédit d'impôt, quelque chose comme ça?
Alors, il y a des aides, effectivement. Pour tous les détails, je vous renvoie sur le site de l'ADEME, puisque vraiment, ça dépend ensuite de ce qu'on choisit comme système. Cette électricité qu'on produit avec son panneau solaire sur son toit, on peut soit l'utiliser, soit la réinjecter dans le réseau. Donc, il y a différentes formules possibles. Allez sur le site de l'ADEME.
Mais on ira sur le site. Mais moi, dès la fin de l'émission, je suis sur le site de l'ADEME. Vous me connaissez.
Mais moi, je suis dessus, là.
D'ailleurs, Baptiste n'a pas attendu la fin de l'émission. Il est Disney sur l'écran.
Ça sur me propose Adèle et Xarchopoulos. Bon, là, c'est pas grave.
Oh, c'est encore plus chaud que des panneaux solaires. Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue, 16h-18h sur Europe 1. Vous n'avez pas encore vu notre campagne de pub à la télé ? C'est normal, on bosse actuellement dessus. Pour l'instant, le slogan qu'on a trouvé, c'est...
Moi, je serai vous, je vous écouterai. Non. Moi, je serai nous, je vous... Si moi, j'étais vous, je vous écouterai.
Non. C'est si moi, je suis vous, non ?
Maintenant, il faut nous écouter.
Bref, ça sent bon, ça arrive bientôt. L'équipe est sauvage, c'est donc chaque après-midi un véritable oasis de bonne humeur pour votre culture G. En compagnie d'un invité d'honneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on adore, qui nous a accompagnés sur France Télévisions pendant plus de 20 ans.
Patrice Lafont.
Patrice Lafont. Catherine, vous publiez À l'amour, à la vie chez Flammarion un recueil
on
de témoignages.
Patrice,
on aime aussi Patrice. Oui. C'est un clin d'œil sympathique. Et ben, tout n'est pas forcément fiel dans ma bouche.
Est-ce que vous voulez une confidence de star ?
Ah. Oui, alors je crois que nos auditeurs. On me signale que
non,
nos
mais
auditeurs
je pense
ont
que
très
Catherine
envie.
S'en souvient parce que je l'ai interviewée à plusieurs reprises pour Télé 7 jours quand voilà, j'étais encore dans ce magazine.
Que je m'envoie des fleurs. Oui, j'étais rédactrice en chef de Télé 7 jours.
J'ai,
oui.
Et j'ai dit un jour à Catherine Sellac, quand je serai grande, je voudrais être Catherine Sellac.
Et ça n'a pas marché.
Mais si.
Faire ce constat aujourd'hui.
Elle me supplante en étant sur Europe 1.
La gentillesse de Catherine Sellac est sans borne. Catherine, vous publiez À l'amour, à la vie chez Flammarion, un recueil de témoignages de personnalités qui ont accepté de vous parler de l'amour avec un grand A, un A minuscule et même parfois d'un amour destructeur, comme Sandrine Bonner qui raconte carrément comment un homme qu'elle aimait a un jour levé la main sur elle et même plus que ça, c'est allé jusqu'à la strangulation. C'est fou comme témoignage. Ça nous surprend vraiment quand on découvre ce livre.
Un
ça
homme
vous a
qu'elle aimait avec lequel elle vivait de plus. Hein. Depuis 4 ans, elle vivait avec cet homme et voilà, elle a voulu le quitter. Bien souvent, effectivement, les hommes, évidemment, sont assez violents dans ces cas-là. Et c'est allé jusqu'à une mâchoire cassée, des dents cassées. Et elle le raconte, mais alors d'une manière vraiment très détaillée. Moi, ça m'a vraiment beaucoup émue. Je suis même sûre que c'est pour par exemplarité, pour dire
parce que le témoignage
attention,
peut être utile.
Voilà, attention, faites attention parce que le danger vient de tous et plus on en parle et plus des personnes comme ça connues en parleront et plus je pense que les hommes prendront conscience aussi qui peuvent être des risques très très forts et très très importants pour les femmes. Et elle racontait des choses qui étaient extrêmement dure, mais malgré tout avec le sourire, parce qu'elle a su, c'est la résilience de Boris Cyrulnik, elle a su, voilà, après 4 ans de thérapie, bah, surmonter tout ça.
On parle évidemment d'amour dans ce livre, mais aussi d'amitié pour Elena Noguera, qui est une des personnes qui témoigne dans le livre. L'amour, c'est finalement moins fort que l'amitié, quelque part. Elle dit « L'amour presque mystique est vraiment dans l'amitié. Quand mes anciens amoureux deviennent des amis, je me dis que c'est ça l'amour. Je me dis « on a raté avant ». Et c'est bien maintenant, on s'écoute.
Ouais, l'amitié. Alors le respect, il y a beaucoup de respect qui revient, le mot respect revient. Il y a Elena Noguera qui dit ça, il y a Flavie Flamand aussi qui le dit, je pense que chacun sait qu'elle a été violée par un photographe. Et elle raconte aujourd'hui aussi, toutes les deux, elles racontent qu'elles sont arrivées à une autre étape de leur vie, une étape amoureuse, mais en fait elles veulent de l'amitié amoureuse, c'est-à-dire de la fraternité. Elles cherchent de la fraternité, elles cherchent quelque chose d'amoureux. Apaisant. Elles ne veulent plus de rapport de force.
Eva ?
Est-ce que l'amour rend beau, Catherine Sellac ?
Oui, assurément, bien sûr.
Parce que c'est une question qui est récurrente dans les témoignages que vous livrez.
Ouais. Ben, en définitive, j'avais un questionnement qui était assez similaire en fait pour les 14. Et d'ailleurs, j'ai voulu vraiment que dans ces témoignages, on entende l'oralité, qu'on entende leur voix, qu'on entende la tessiture de leur voix, parce que ce sont des voix connues. Et donc, je voulais vraiment garder l'oral et non pas des figures de style. Ou que ce soit trop littéraire. Et c'est sûr, vous avez raison, ça rend beau, ça rend épanoui, comme les amours toxiques peuvent détruire aussi.
14 personnalités exposent leur vision de l'amour dans son dernier livre, À l'amour, à la vie chez Flammarion. Catherine Sellac est notre invitée.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Dans thé ou café, comme dans ce livre, vous préférez écouter les autres. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous n'aimez pas parler de vous. Vous, par exemple, si vous étiez vous-même contacté pour ce livre, vous auriez dit non, jamais.
Moi, lorsque j'ai, durant 22 ans, fait thé ou café, c'est vrai que souvent, je me disais, mais comment c'est possible de répondre à ces questions ? Vous saviez, il y avait le dos à dos, notamment,
oui.
Qui était quand même un exercice un peu délicat, parfois avec des questions un peu coquines, et tout le monde me répondait. Et moi, je pensais vraiment intérieurement, mais je l'aurais giflé. J'aurais vraiment pas supporté d'entendre quelqu'un me poser cette question-là. Mais je crois que c'était dans le feu de l'action, en définitive, et puis en sachant que c'était pas, il n'y avait aucune méchanceté, il n'y avait jamais eu d'agressivité de ma part, mais c'est allé quand même parfois très très loin, et moi-même, je n'aurais certainement pas répondu. Et alors pour ce livre, encore moins.
Non, ça va encore plus loin dans l'intimité,
donc
c'est
vous,
sûr.
Vous voulez pas mettre une note à votre vie amoureuse comme vous leur demandez à vos
alors,
témoins.
Si, ah, parce que note, là, oui. Là, c'est assez simple. Là, ah. Moi, j'aurais quand même qu'elle est pas mal ma vie amoureuse. Allez, on va dire.
Si vous écoute votre mari.
Non, mais non,
si, allez,
peut-être qu'il écoutera.
S'il écoute,
je dis 19. S'il n'écoute pas, je dis 5.
Catherine Sellac, tous les jours, nous proposons dans l'équipe sauvage un petit quiz thématisé à notre invité où vous affrontez Eva Rock. Comme durant votre carrière, les plus grandes stars se sont confiées à vous, nous allons faire un quiz sur les célébrités françaises. Une affirmation, trois propositions. À chaque fois, vous me donnez votre choix. C'est parti. Quand Mazarine Pinjot est née, l'identité de son père était le secret le mieux gardé de France et pourtant, l'obstétricienne qui avait procédé à l'accouchement était la tante d'une star. Laquelle ? 1. Jean-Paul Gaultier. 2. Renaud. 3. Jean-Luc Lahaye.
Alors là, moi, j'en ai aucune idée.
Est-ce que vous avez une petite idée de ça ?
Moi, bon, je dis au pif. Hein. Jean-Paul Gaultier.
Moi, j'aurais dit Renaud. Oh. Je sais pas pourquoi.
Et oui, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez raison pour une fois, Eva.
Ah ouais,
pour une fois,
bah oui.
Pour une fois, le destin
est avec vous. Pas que je réfléchisse vraiment. Hein.
C'est la. Ouais. Non, ouais. Voilà. À mon ça avis, c'est le secret. À mon avis, on touche là un point névralgique de l'émission. Ne réfléchissez plus. C'est la sœur du père de Renaud qui a donné naissance à la fille de François Mitterrand. Comme le monde est petit finalement. Qui a dit si je devais changer de métier, ce serait la restauration ou la prostitution. J'aime l'idée que dans les deux cas, il faut servir quelque chose de chaud tout en étant assez frais.
C'est horrible.
C'est frais. C'est très chic. 1. Olivier Mitte. 2. Mathilde Seigner. Ou 3. Édouard Philippe.
Mathilde Seigner.
Olivier Mine, on dirait.
Eva, il ne faut plus jamais réfléchir. Vous avez tout juste aujourd'hui.
Mais
effectivement,
oui, parce qu'il est très drôle,
Olivier
Mine
qui a eu cette petite répartie assez sympathique. Il a aussi dit toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, mais dans d'autres circonstances. Ça, c'était dans Fort Boyard. Je vous présente un artiste mondialement connu, le Canadien, aux 75 millions de disques vendus, The Weeknd. Il le sent venir. Il y a 8 ans. Je ne fais que traduire littéralement le titre de cette chanson. Il y a 8 ans, il a repris une chanson française. Mais de qui ? 1. De France Gall ? De Charles Aznavour ? Ou 3. De Julie Pietri ?
Alors ça ?
Le premier, c'est ?
France Gall.
Bon, France Gall.
France Gall.
Bah, je réfléchis toujours pas. Et non, je dis pas. Le truc le plus idiot, Julie Pietri.
Oui, alors pour une fois, ça ne m'a pas fait cool. C'est pas mathématique encore. Hein. C'était France Gall.
Ah !
Oui. Hein, et oui, The Weeknd a sorti sa chanson en 2011. Celle de France Gall date de 64 et on la doit à qui ? Point bonus ?
Michel Berger ?
Ah non, pardon,
non,
oui,
non,
c'est
non,
vrai
non,
que
non.
Il y avait un piège,
c'est oui,
l'autre.
C'était
l'autre. Il y a une chance sur deux avec France Gall.
C'est ce que j'allais vous dire, ouais.
Il a écrit Sentiment, Sexe, Solitude, un recueil érotique où je cite « J'ai laissé parler l'ex-adolescent qui s'est livré sans faillir quotidiennement entre 12 et 17 ans au plaisir solitaire. » Qui est-il ? 1. Serge Lama. 2. Guy Carlier. 3. Igor Grishka Bogdanov, un livre écrit à quatre mains.
Oh, d'abord, on n'écrit jamais à quatre mains.
Oui, mais là, c'était juste une référence par rapport à l'onanisme. Mais
enfin,
évidemment...
on écrit avec ses pieds aussi.
Oui, et là, je crois connaître la réponse.
Vous connaissez la réponse ? Alors, laissons notre invité répondre.
Guy Carlier.
À mon avis, Guy Carlier l'a écrit aussi.
Non, mais c'est Serge Lama.
La réponse, c'est Serge Lama.
Ouais.
Est-ce que vous avez reçu Serge Lama ?
Oui.
Vous l'avez reçu à l'époque, ça vous dit rien ce recueil ? Parce que nous, on l'avait reçu à C'est à vous sur France 5, je me souviens.
Il parle beaucoup d'érotisme, de choses sexuelles.
C'était chaud bouillant, c'est sorti en 2007 et vous pouvez le trouver pour 5€ sur un site de vente en ligne. Pourquoi s'en priver ? Après la disparition de René Angélil, Céline Dion avait un rituel avant d'entrer en scène. Elle serrait une réplique en silicone d'une fausse main qui avait été moulée directement sur celle de René. Qu'avait-elle écrit sur la petite table où était fixée cette main ? 1. Touche du bois avec René. 2. Tapement en 5 avec René. Ou 3. Croise les doigts avec René.
3.
Croise les doigts avec René.
Touche du bois.
Touche du bois avec René. Et Eva Rock, une fois de plus, vous n'avez pas réfléchi.
Mais oui, non,
ça
j'ai pas réfléchi.
C'est gagné. Touche du bois avec René.
C'est une
parfaitement exact, c'était écrit.
Hein. J'ai gagné le quiz.
Knockwood with René. Qui a gagné le quiz ? C'est historique, c'est la première fois. Eva Rock, bravo. Un cadeau que vous a fait Catherine Sellac, probablement. Les stars, oui. Les stars parlent d'amour comme jamais dans son dernier livre, À l'amour, à la vie. Catherine Sellac est notre invitée.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Vous venez peut-être de nous rejoindre, bienvenue dans l'équipée sauvage de Mathieu Noël. C'est tous les jours sur Europe 1 de 16h à 18h et même le week-end avec les moments marquants de la semaine écoulée. Il s'entoure d'une complice, Eva Rock, d'un invité et des journalistes d'Europe 1 qui depuis la rentrée se sont lancés dans une compétition pour accéder au titre de chroniqueur du jour grâce à un sujet fort. Alors justement d'ici à 18h, eh bien on va parler du championnat du monde de boucherie, d'intelligence artificielle capable de compter le nombre des manifestants. Fini les estimations à géométrie variable. On parlera aussi de ses expressions et autres métaphores préférées des journalistes ou encore du Scooby-Doo le plus long. Mais pour l'instant, c'est Alain Sirou que nous, avec Alain Sirou que nous commençons. C'était lors de l'émission en public en présence de Vincent Delerme.
Voici l'homme aux lunettes flippantes, la mémoire de l'espace, la terreur de Jean-Paul Rouve, Alain Sirou. Enfin, un scientifique qui répond sans langue de bois, notamment quand je lui demande si la vie extraterrestre existe.
Je ne tomberai pas dans le piège de la réponse facile qui mène tout droit à la démagogie et à l'anti-France.
Oui, bon, alors, Alain, cet après-midi, vous nous parlez espace et économie. Bonne nouvelle, on va peut-être pouvoir se faire de la maille avec les météorites.
Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut se faire plaisir et surtout... on peut offrir
du rêve.
Du rêve, c'est vraiment ça. C'est une pierre extraterrestre, quelle que soit sa taille, sa provenance, c'est vraiment du rêve. Et je pense que emmener les enfants voir juste simplement à quoi ça ressemble, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Parce qu'il y a une expo à Drouot.
Il y a la maison Lucien a rassemblé quelques centaines de météorites qui viennent d'un petit peu partout du système solaire pour une vente aux enchères lundi. Bon là, après, ça dépend de l'argent, si je puis dire, mais...
Mais alors justement, faisons
c'est vrai,
un point sur l'argent. Combien ça coûte un fragment de météorite? Vous m'avez offert ici un petit fragment.
Ben ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la qualité de l'objet, ça dépend de sa provenance, ça dépend de sa masse, ça dépend de sa fraîcheur. Quand est-ce que c'est tombé? Ça dépend de sa rareté, ça dépend de son histoire.
Il y a donc un marché de la pierre de météorite.
Alors, il y a un marché de la pierre de météorite parce qu'il tombe chaque année 30 000 tonnes de cailloux du ciel. La plupart, c'est des
heureusement pas au même endroit.
Non, mais c'est réparti de façon uniforme. Mais on en trouve surtout là où il n'y a personne. C'est-à-dire, en fait, dans le Sahara, dans la mer. En tout cas, on ne va pas plonger pour en trouver, mais... les météorites, soit on les voit tomber et on va les trouver et les chercher, soit finalement c'est des chercheurs comme les nomades dans le désert qui récupèrent des cailloux qu'ils ont appris à identifier. Et ces cailloux viennent de différentes provenances. Il en vient de la ceinture d'astéroïdes, donc c'est entre Mars et Jupiter là où il y a des collisions. Il en vient de Mars, il en vient de la Lune, tout simplement parce que certains astéroïdes cognent sur la surface lunaire ou martienne, éjectent des débris, ces débris se retrouvent dans l'espace et ensuite retombent sur la Terre.
Ils rebondissent sur la Lune.
Ils rebondissent sur la Lune, c'est exactement ça, c'est comme quand vous lancez un caillou, vous voyez,
ça ricoche.
Et donc, en fait, on a authentifié des objets dont on sait qu'ils viennent de Mars, de la Lune, de la ceinture d'astéroïdes. Il y a des très belles choses.
Alain, comment on peut savoir que cette petite roche que vous m'avez donnée vient de Mars? Il y a écrit Mars Rock. Mais comment on sait que c'est Mars et pas une autre planète ou un astéroïde?
Alors, Mars, on suppose. Parce
qu'on ça ne vaut rien, ça, finalement, si on ne sait pas, si on n'est pas sûr.
Les géochimistes en sont sûrs parce qu'ils font une analyse chimique de la météorite pour savoir de quoi elle est composée. Donc, la Lune, on voit très bien. Les astéroïdes, on voit parfaitement. Et Mars, on voit que c'est différent. Et je dirais que c'est crédible parce qu'on a aujourd'hui l'assurance qu'avec les sondes qui roulent à la surface de Mars, des petits robots, ça correspond à ça. Mais je dirais l'authentification qui est faite par des professionnels comme le Muséum National d'Histoire Naturelle, mais il y a surtout la pierre elle-même. C'est-à-dire que là, j'ai entre les mains, par exemple, c'est pas très radiophonique.
Pour ceux qui nous suivent sur Europe 1.fr.
Voilà. Une palazite, c'est-à-dire en fait, c'est une météorite métallique avec à l'intérieur une inclusion d'olivine. C'est très beau et surtout c'est un vaisseau spatial. C'est-à-dire, vous savez que c'est né il y a 4 milliards d'années, plus de 4 milliards d'années.
Vincent Delerme, c'est pas un vaisseau spatial, c'est juste un bout de roche, Alain.
Ça a voyagé dans l'espace, c'est un vaisseau spatial et ça vous raconte une histoire qui est l'histoire de nos propres origines, de la formation du système solaire. Ça fait rêver et c'est vrai que. Bien sûr, si vous regardez le prix de cet objet, on trouve par exemple une météorite qui s'appelle la météorite de Mont-Dieu, qui a été trouvée dans les Ardennes, qui fait 364 kilos et qui est estimée entre 80 et 120 000 euros.
Mais est-ce qu'il y a des petites, comme ceux que vous m'avez offert, est-ce qu'on
peut
trouver ça?
Absolument. Vous pouvez en trouver pour quelques dizaines d'euros seulement. Et je dirais que l'argent est peu important dans cette affaire-là, sauf si on est vraiment collectionneur, où on veut un bel objet qui tape à l'œil, mais que c'est des collectionneurs. Voilà, on est prêt à dépenser plein d'argent. Mais pour soi, pour quelques euros seulement, on peut s'offrir un tout petit bout de rêve avec des morceaux de météorites qui viennent encore une fois, entre Mars et Jupiter, et dont on arrive aujourd'hui à identifier presque le père géniteur. On a un objet qui vient de Vesta, ou qui vient d'un astéroïde qu'on a vraiment identifié. Et ça, c'est quelque chose qui est émouvant, parce qu'on sait que ce voyage-là dans l'espace, il a une poésie extraordinaire.
Je sens Eva émue.
Oui, et parce que en plus, c'est un truc qui est étonnant quand on porte le bout de roche que vous nous avez amené. Vous avez remarqué comme c'était lourd.
La masse
n'est pas du tout la même qu'une pierre de la même taille qu'on ramasserait sur le sol.
Là, je vous ai passé une métallique. Et vous en avez qui sont des pierres, pierreuses. Vous avez plein de sortes en fait de météorites, et ça qui fait aussi la variété et la complexité, parce que vous avez des météorites qui sont, je dirais, très primitives, dont on sait qu'elles ont peut-être contribué à l'apparition de la vie sur Terre, et qu'on analyse comme étant des pierres de Rosette de ce qui se passait dans le système solaire il y a 2-3 milliards d'années. Elles sont tombées sur la Terre. Qu'est-ce qu'elles portaient? Qu'est-ce qu'elles transportaient? Et donc, c'est une enquête scientifique. Et puis, c'est de la beauté.
Merci beaucoup, Alain Sirou. Une fois de plus, vous nous avez fait rêver. Je ne sais pas si vous avez fait rêver Vincent Delerme. Vous êtes de la génération E.T., Vincent Delerme.
Il m'a fait rêver.
Alain Sirou,
vous avez
fait
votre
rêver.
Réponse.
Est-ce que vous, quand vous étiez gamin, et peut-être toujours aujourd'hui, vous êtes fasciné toujours par l'espace?
Eh bien, pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais c'est vrai.
16h, 18h, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage se poursuit à présent avec la recette facile et pas chère d'Olivier Pouls. Et pour l'accueillir, notre monsieur gastronome, c'est le maître des lieux, tout simplement Mathieu Noël, avec à ses côtés Eva Roch et la présentatrice et journaliste Catherine Sellac.
Chaque jour, pile au moment où vous réalisez que vous avez oublié de faire les courses et de penser à une recette pour ce soir, il arrive pour vous sauver un aventurier de la gastronomie qui revient de loin.
Moi, dans la vie, j'avais deux ennemis, le vocabulaire et les épinards. Maintenant, j'ai la bonne secrète et je vous file l'épinard.
Ma chère Catherine Sellac vous présente Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui dans Délices in Extremis?
Une tarte vigneronne.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Eh bien, c'est délicieux. La base, c'est très simple. Bon, il vous faut évidemment des raisins, vous vous en doutez, maintenant on connaît les gimmicks. Hein. Tarte aux raisins avec des raisins.
Vous êtes fort.
On va faire une pâte sablée. Alors la pâte sablée, c'est la seule pâte que je vous conseille de ne pas acheter, parce que vraiment à faire,
trop
c'est
compliqué.
Hyper facile. Non, c'est hyper facile,
non,
mon cher Mathieu.
Facile,
écoutez, il faut 250 g de farine, 125 g de sucre, un œuf, 100 g de beurre pommade, c'est-à-dire du beurre qui a ramolli, et une petite pincée de sel. Vous malaxez bien tout ça, vous en faites une jolie boulette, vous la mettez au frigo pendant un quart d'heure, 20 minutes, qu'elle durcisse un peu, et puis vous l'étalez avec un rouleau à pâtisserie.
Ne faites pas des gestes indécents, cela dit, en studio, pour ceux qui nous regardent en vidéo sur Europe1.fr, il y a peut-être des enfants parmi eux.
Peut-être. Et ensuite, pré-cuisson, cuisson à blanc dans un plat à tarte habituel pendant environ un petit quart d'heure.
Qu'est-ce qu'une cuisson à blanc?
C'est une pré-cuisson de la pâte, de manière à ce que vous ayez une pâte au moment où la tarte sera terminée, qui soit vraiment bien cuite, et que quand vous allez mettre votre appareil, l'appareil ne soit pas bu immédiatement par la pâte. Alors là, pareil, j'y reviens. Alors c'est très simple, hein. Il vous faut un œuf, un petit peu de crème, allez, 100 grammes à peu près, puis 30 grammes de sucre, et puis plein de raisins. Et donc vous allez mettre votre appareil au fond de la tarte.
Des raisins rouges?
Je préfère avec les raisins rouges. On peut aussi le faire avec des raisins blancs, mais ce qu'il faut, c'est que les raisins rouges soient vraiment bien sucrés. Et vous les laissez entiers, les raisins, avec les pépins. C'est pas grave, ça croustille un petit peu, mais les pépins vont cuire aussi. Et donc vous mettez plein de raisins dans votre tarte, vous l'enfournez dans un four à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes, et vous avez une délicieuse tarte avec des raisins qui auront confit.
C'est comme un peu une sorte de clafoutis, parce qu'avec la préparation,
oui, mais il y a
l'œuf
une pâte
et la crème,
donc c'est pas tout à fait un clafoutis.
Et avec qu'est-ce qu'on boit avec cette tarte aux raisins?
On pourrait boire un petit peu de vin, par exemple.
Avec modération.
Avec modération. Alors, en revanche, on peut boire un vin rouge, mais il faut un vin rouge un petit peu sucré, donc ce qu'on appelle un vin muté. Ouais. On pourrait boire, par exemple, un Mauri.
Eh bien voilà.
Bah, allons-y.
Comme ça, vous avez tout noté et vous avez la recette pour ce soir pour épater conjoint ou conjointe. Merci Olivier Pouls.
Et je vous en prie.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et on se détend tous les jours sur Europe 1 et même le week-end avec Mathieu Noël. Se divertir tout en s'informant, tel est son credo. On va le retrouver à ses côtés toujours, sa grande complice Eva Roch et un invité, ici en l'occurrence, l'humoriste Baptiste Lecaplan.
En préparant cette interview, Baptiste, car je prépare mes interviews, j'ai appris qu'enfant, vous étiez d'une timidité presque maladive. On a du mal à le croire aujourd'hui, mais cela dit, beaucoup d'humoristes nous disent que avant d'attaquer la scène, ils étaient très timides.
Oui, je l'étais énormément. J'en avais parlé dans le précédent spectacle. Mais oui, j'écrivais sur un papier ce que je devais dire à la boulangère. Ouais.
Ah oui, tout était.
Ouais, ouais, tout était scénarisé,
ouais. Improvisé.
Non, mais j'étais très pâlo et je rougissais énormément. Et c'est un truc que vivent les timides, qui est un truc assez horrible. C'est quand vous êtes mal à l'aise en public et que vous parlez, il y a toujours quelqu'un qui fait faut pas rougir.
Pourquoi tu rougis encore plus.
Et ouais, donc c'est un enfer. Et ce truc fait bloquer énormément. Et j'avais tendance à vouloir parler très très vite justement. Donc j'avais tendance à bégayer. Donc vous bégayez, vous êtes petit, vous rougissez. Ouais, ça partait pas avec un sex appeal de folie. Hein. voilà, je partais pas avec des likes d'Emilie Ratajkowski sur Instagram. Hein. Mais oui, la timidité fait que au moins on pense à des trucs. Je parlais moins, je réfléchissais beaucoup. J'ai des personnages qui se sont créés dans ma tête et tout est sorti aujourd'hui. Quoi.
Et est-ce qu'il y a des choses qui restent de cette timidité de l'adolescence? Est-ce que par exemple, quand vous êtes dans un ascenseur avec quelqu'un, vous êtes toujours gêné ou c'est passé?
Oh, et ça m'est arrivé tout à l'heure. J'étais dans mon parking et il y a mon voisin du dessus qui était à côté. Il fait, bonjour! Ah, bonjour! Et j'ai ouvert mon garage, je fais « Putain, dis un truc, il a un vélo électrique. » Et j'avais voulu dire « Ça marche bien le vélo électrique ?» Je dis « Mais si tu dis ça, t'es vraiment une merde. » Et donc j'ai que des débats dans ma tête comme ça. Et je voulais inventer des applications pour trouver des conversations pas nulles dans les ascenseurs en fonction des étages. Et ouais, mais on a trois étages, conversation de trois étages. La fête des voisins, c'est quand cette année? Ah ben, je sais pas, ploup. Et voilà, mais ça, c'est horrible. Et je déteste me faire remarquer dans les lieux publics. Ça me met mal à l'aise.
On sent que vous êtes un garçon qui réfléchit beaucoup, Baptiste Lecaire.
Ah oui, je réfléchis beaucoup.
Y compris à vos proches. Dans le dernier spectacle, vous dites, le dernier spectacle qui était très personnel, qui s'appelait Origine, dites, j'ai enlevé les trucs qui déplaisaient à mes parents et surtout à ma mère pour que cela ne soit pas mal interprété. Vous auto-censurez d'un point de vue familial.
Non, mais alors, c'est.
Ou c'est votre mère qui est venue gueuler.
Elle a gueulé au bout de 2 ans. Donc ça m'a emmerdé parce que elle m'a dit non, en fait, je dois te dire, ça fait 10 fois que je vois le spectacle, ça j'aime pas. J'ai dit bah dis-le-moi avant.
Dis-le tout de suite.
Nigo, je veux pas. Mais en fait, ce qui me fait de la peine, c'est de. J'ai pas envie que mes parents pensent que je me moque d'eux. Alors, ça sonne comme une moquerie parce que mon père, quand il est au milieu de l'Olympia et que tout le monde fait. Mais c'est la vérité. Pour moi, quand je dis la vérité, ce n'est pas méchant. Mais mes parents ont du mal à comprendre ça et j'essaie de leur expliquer parce que dans le troisième, j'ai un boulevard sur 2-3 trucs. Si je m'engouffre pas dedans, je suis Florence Foresti. Ça fait 5 ans qu'elle me dit quand est-ce que tu vas faire le sketch sur ta mère? Parce que ma mère, c'est un vrai truc qu'elle fait. Elle a son salon de coiffure et Florence me dit quand est-ce que tu vas faire le sketch où tu expliques que ma mère, quand elle s'engueulait avec mon père, il dit je m'en vais. Il repartait travailler. Et elle dit Jackie, viens ici. Et il partait, elle dit putain, je suis encore énervé. Et elle allait, mais elle est tarée, hein. Elle allait dans son salon de coiffure, elle prenait le répertoire et elle appelait les représentants de commerce qui lui vendaient des produits. Elle disait, je vais me défouler sur un. Et elle appelait, allô, monsieur Landrin? Oui, madame Kaplan, pourquoi vous m'appelez? Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Ça fait 17 ans, monsieur Landrin. Vous m'avez fait une réduction de produits? Attendez, je comprends pas, là. Ouais, moi, je comprends très bien. Et en fait, elle raccrochait, elle fumait une clope. Et ça fait du bien. Mais elle est folle, hein. Vraiment, ça, c'est un duo, voilà, tu te moques. Mais je dis, mais Martine, c'est la vérité. Faut que les gens sachent, en fait. C'est la vérité.
Martine, ça sera pas sa partie préférée du spectacle.
C'est Régine. J'assume pas Régine. Mais non, mais c'est fou de faire ça. Elle m'a eu des réductions de forfait téléphone. Elle m'a dit t'as un mois offert chez Orange. Mais pourquoi? Je l'ai défoncé.
Jean-Philippe, vous connaissez la mère de Baptiste, visiblement.
Si elle nous écoute, on l'embrasse très fort, en tout cas.
Ah, bah oui, ça c'est sûr que
les engueulades de mes parents m'ont donné un puits de vannes, ils s'en rendent même plus compte. Mais c'est hallucinant.
Bah là, ils vont bien s'en rendre compte sur le prochain spectacle.
Mais non,
je
veux pas qu'ils pensent, j'ai pas envie de leur faire de la peine, évidemment, j'ai pas envie de blesser mes parents, mais c'est rigolo.
Eva, toute petite question, est-ce que la paternité sera un des sujets du prochain spectacle?
Un peu, forcément.
Ouais.
Forcément.
Ça inspire, ça.
Mais c'est dur de passer derrière un spectacle comme Motherfucker, par exemple, de Florence. Et j'ai pas envie de faire un Fatherfucker, parce que ça, le terme est pas trop le même.
Une levée de bouclier.
Voilà. Et non, mais oui, il y en aura, évidemment. Évidemment qu'il y en aura, c'est sûr. Mais ça grandit petit à petit au fil des expériences.
Là, évidemment, il y a eu une idée de sketch qui est née dans votre esprit. Non, mais il y a déjà eu la réaction du public et le rire.
Il y en a, évidemment, mais pour parler avec plein de collègues humoristes, c'est vrai, j'en parlais, c'est les réflexions. Ça, c'est les meilleurs trucs aussi. C'est le fait de traîner dans les comédie clubs. Maintenant, on se retrouve avec des humoristes dans les loges et on parle de tel ou tel spectacle, de ce qu'on a pu avoir et tout. Et c'est vrai qu'il y a
faut pas faire des enfants pour pouvoir faire des sketchs. Il y a vraiment des gens, on se dit, tiens, je vais peut-être faire un gosse, ça va amener des trucs, ça amène surtout des cernes et plein de moments de bonheur, mais faut pas en faire pour en faire. Faut vraiment en parler si c'est drôle. Et l'axe qui est assez rigolo, je pense que j'ai l'originalité que je peux amener sur scène là-dessus, c'est que je suis papa de deux filles et que je suis entouré de meufs à la maison. Ça, c'est un truc intéressant. Il y a un axe intéressant à trouver. Mais passer derrière des Louis C.K. ou des trucs comme ça, c'est compliqué parce qu'il a quand même fait des blagues très, très, très drôles.
C'est vrai. Louis C.K. qui écoute Europe 1. On l'embrasse aussi.
Il a passé du temps en France. Hein.
Europe 1. Oui, oui.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Vous le retrouvez tous les jours de la semaine, mais aussi le week-end, pour revivre les moments essentiels de la semaine passée. C'est Mathieu Noël. Eva Rock est à ses côtés. Il y a aussi un invité. Ici, en l'occurrence, le candidat pour la France au concours de l'Eurovision en mai dernier, Bilal Hassani. Et puis, il y a toujours un journaliste.
Moi, mon truc, c'est le journalisme. Et CNN n'a qu'à bien se tenir, car voici un reportage sur le Scooby-Doo, le plus long du monde. Je l'ai montré à Eva tout à l'heure en antenne.
C'est énorme.
Oui, elle était toute chose. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour.
Ce sont des élèves d'une école de Haute-Garonne qui se sont lancés dans ce défi. Au départ, un projet pour occuper les enfants, sauf que maintenant, tout le village s'y est mis.
Oui, ça a commencé il y a un an quand une animatrice du centre de loisirs de l'école de Castelnau d'Estrée-de-Fonds qui voyait les enfants faire des Scooby-Doo s'est dit bah, pourquoi pas tenter de faire le plus long du monde. Jusque-là, il était établi à un peu plus de 900 mètres, c'était faisable. Oula. Alors ils ont commencé à tisser des Scooby-Doo, 1, 2, 10, des centaines. Sauf qu'entre-temps, une nouvelle école, l'établissement Fondada, a ouvert dans le village et Gwen Hervé, l'animatrice en question, a imaginé de relier les deux écoles entre elles.
Les enfants étaient séparés, les animateurs, les enseignants. Et du coup, c'est vrai que ce projet permettait de relier les deux écoles à la fois sur un projet commun et à la fois symboliquement en déroulant un Scooby-Doo qui rejoindrait les deux écoles.
Ce geste-là que vous faites, vous l'avez fait combien de fois ?
Alors là, je suis en train de préparer le Scooby-Doo pour qu'il puisse le tisser ensuite parce que le démarrage n'est pas facile. Et là, en un an, je pense que j'en ai fait 10 000 peut-être.
Et du coup, Inès, qui avec la nouvelle carte scolaire a été séparée de pas mal de ses copines, elle est ravie de les retrouver grâce à ce projet.
J'avais une copine qui s'appelait Julia, une autre qui s'appelait Lilou et une autre qui s'appelait Zélie qui sont parties à Fondada et j'étais triste parce que c'était mes meilleures amies.
J'ai hâte de retrouver mes copines s'ils font les Scooby-Doo comme nous.
Oh, alors Benjamin, mignonne. Tout ça est bien mignon, mais moi vous me connaissez, je suis un compétiteur et j'ai envie de savoir, est-ce qu'ils ont une chance de battre le record ?
Ben, ils m'ont montré où ils en sont. Ils ont enroulé leur gigantesque Scooby-Doo autour de grandes bobines en bois. Et actuellement, ils en sont à un peu plus d'un kilomètre 400, pas mal quand même. Autant dire que pour le record, c'est bon. Mm-hmm. Sauf qu'entre les écoles, il y a un kilomètre 700 à parcourir. Et maintenant, c'est ça leur priorité. Ça fait pas moins de 15 000 Scooby-Doo au total. Du coup, tout le monde s'y met. Les clubs de sport, les bénévoles de la Croix-Rouge, même le club du troisième âge. C'est devenu un projet intergénérationnel. Et Francis, par exemple, vient régulièrement déposer un paquet à l'école.
Là, il y en a 50. Et j'en fais à peu près 100 tous les 15 jours. J'en ai fait beaucoup, moi. J'en ai fait à peu près 1300, 1500. Ça me détend. Puis en même temps pour les jeunes. Puis en plus, il va y avoir un record du monde. Et alors là, c'est encore mieux, quoi.
Voilà, alors grâce à Francis et à tous les autres, il devrait être prêt pour l'homologation du record. Ce sera le 16 novembre avec un géomètre, un huissier notamment. Puis ensuite, tout le plastique de ce grand Scooby-Doo sera recyclé en une œuvre d'art exposée dans la future médiathèque de Castelnau d'Estrée-de-Fonds.
Eva Rock.
Et Benjamin, rassurez-nous, les enfants, ils vont quand même à l'école, ils font quand même leurs devoirs,
ils
apprennent
Scooby-Doo.
Encore des choses. Ils
évidemment,
font comme
ils font ça dans le centre de loisirs. Et là, comme en plus, c'est les vacances, là, ils peuvent en faire à fond des Scooby-Doo.
On va leur en envoyer deux.
Scooby-Doo-Bidoo. Merci Eva Rock, merci.
Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Il est 17h27 précisément, vous écoutez Mathieu Noël jusqu'à 18h. Et présente Eva Rock, bien sûr, un invité, l'humoriste Baptiste Le Caplin. Et puis dans le cadre de la compétition, nos journalistes chroniqueurs avec toujours un sujet édifiant et captivant. Alors, si je vous dis cerise sur le gâteau, vent debout, lanterne rouge. Oui, on va parler de ces expressions médiatiques très utilisées par les journalistes.
Jean-Philippe Ballas vous livre le palmarès des phrases toutes faites préférées des journalistes.
Oui, parce que je les aime, ces expressions, droit dans ses bottes, le serpent de mer, le feu aux poudres, ma préférée. Affaire à suivre. Bref, toutes ces métaphores, pour ne pas dire ces poncifs, que vous lisez ou entendez dans la presse chaque jour. Eh bien, nos copains du JDD se sont amusés à les recenser, à les classer avec une plateforme, un institut, un inventaire à la Prévert, encore un poncif. Ils ont fait ça entre janvier et début octobre. Tambour battant, encore une métaphore. Plus de 3000 titres de presse et de médias audiovisuels scannés sans langue de bois. Je ne m'arrête plus. Un classement que j'ai regardé à la loupe. Je suis en feu. Et cerise sur le gâteau, devinez quelle expression arrive en tête.
Cerise sur le gâteau. Oh, c'est un peu ringardos, ça. On le dit encore, ça, cerise sur le gâteau.
Plus de 35 000 citations, juste devant le vent en poupe. Et alors, pas loin derrière, il y a la fameuse source proche du dossier. Alors ça, c'est quand vous ne pouvez pas donner le nom.
Ah mais ça, on est obligé de dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Mais vous tenez à dire quand même que c'est béton, un peu comme selon nos informations. Ah oui. C'est
selon nos
scoop.
Informations. Oui.
Dans les rédactions comme ici à Europe 1, malgré tout, on essaie de faire la chasse aux expressions un peu faciles comme ça, qui parfois d'ailleurs n'ont aucun sens. Il y a cette expression « véritable arsenal », par exemple. « Véritable arsenal ».
Comme si elle avait un faux.
Moi, j'imagine les gendarmes qui arrivent. Alors, dit Gérard, est-ce que c'est un arsenal ou est-ce que c'est un véritable arsenal? Je vais demander à Jean-Louis, si vous préférez. Alors non, c'est pas un arsenal, c'est un véritable arsenal. En tout cas, c'est un coup de filet. Ça aussi, c'est un autre poncif. Alors, je me souviens d'un patron ici qui avait interdit à l'antenne l'expression « chassé-croisé », gros poncif du mois d'août.
Comment on fait entre juillet et août?
Vous vous débrouillez, vous trouvez une autre expression. Je me souviens aussi d'un rédacteur en chef qui m'avait rattrapé in extremis avant l'antenne parce que j'allais utiliser l'expression « pavé dans la mare » dans un sujet sur les inondations,
ce qui était un peu
malheureux. Dans le JDD, vous avez aussi le classement des expressions sportives. À coup de lanterne rouge, de chemin des filets,
c'est pire.
De remontada. Ouais. Je n'en peux plus de la remontada, il faut arrêter absolument avec ça.
Ouais.
J'ai une petite tendresse quand même pour les expressions classées 6 et 7, à savoir, sur le plan technique et le célèbre, à ce stade de la compétition, des classiques, des intemporels. Je dis bravo au JDD qui a mouillé le maillot.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Et on peut retrouver Mathieu Noël, sachez-le, en public le vendredi. Il accueillait d'ailleurs dernièrement l'auteur-compositeur-interprète Vincent Delerme, qui est de retour avec un nouvel album intitulé Panorama, d'un film aussi, Je ne sais pas si c'est tout le monde. Son titre, il est sorti en salle ce mercredi. Et puis, il y a une tournée en France. Les premières dates parisiennes sont complètes, mais il reste encore des places pour La Cigale le 6 novembre, donc à Paris.
On va chercher à en savoir plus sur Vincent Delerme. On est allé à votre rencontre, dans la rue. Voici, non pas un micro-trottoir, trop banal pour nous, voici un micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on ne l'a pas monté pour flatter l'ego de l'invité. On a tout mis en vrac.
Vincent Delerme, c'est un chanteur, un artiste, quoi.
C'est pas le fils d'un écrivain?
C'est ça. Je connais l'écrivain, mais je connais moins le fiston.
Il chante ce qu'il... Oui, vit ce qu'il chante. Ses textes, c'est profond. Chanson française avec des beaux textes.
Vincent Delerme? De l'herbe? Vous savez pas où il y a un tabac?
Puis c'est aussi les mélodies... Il y a quand même un beau boulot derrière.
Et il a une voix atypique surtout. Bonjour, je m'appelle Vincent Delerme. Quelque chose comme ça?
Bon, je sais pas, il fait de la chansonnette un peu. Ouais, moi je suis plus... en fait, je parle, c'est de la médisance pure, hein, parce que je le connais pas, le mec.
Ça touche n'importe quelle génération. Ça peut être autant les jeunes que les moins jeunes. C'est un super artiste.
Alors, Vincent Delerme, on entendait une jeune femme vous imiter. C'est vrai qu'il y a quand même une signature vocale, Vincent Delerme. Vous avez toujours chanté comme ça, c'est votre voix spontanée, j'ai envie de dire, ou vous l'avez finement travaillée?
Oh non, mais c'était surtout sur les deux premiers disques. Et là, c'était vraiment une usine, effectivement. Enfin, j'ai nourri plein d'imitateurs à ce moment-là. Mais c'était marrant, parce qu'à l'époque, je voyais bien que c'était étrange de chanter comme ça. Mais ça me suis toujours dit que l'enjeu n'était pas là, en fait. Ce qui comptait, c'était de faire passer les chansons. Mais puis après, non, quand même, j'ai chanté un peu plus droit par la suite.
Quelque part, ça vous donne une couleur qui vous singularise totalement par rapport. On entend n'importe quelle chanson, même une nouvelle, on sait tout de suite que c'est vous.
Ah oui, tant mieux, mais en même temps, c'était pas vraiment recherché. Par contre, j'ai toujours pensé qu'il y avait ce truc-là en France, dans la chanson. Il y a une sorte de permission de chanter un peu étrangement, parfois, des gens comme Renaud, comme Moustaki. Évidemment qu'à The Voice, il se ferait dégager tout de suite, mais c'est pas très grave.
Vous avez dit, j'ai toujours été un peu vieux avant l'heure. Au collège, on vous appelait Papy Delerme.
Ouais, c'est quand je suis arrivé sur mon premier disque, j'aimais bien dire des trucs comme ça, parce que chanter qu'il fallait pas dire. J'aimais bien mettre les pieds dans le plat de ces choses-là un peu. Puis,
vous êtes vous-même caricaturé.
Oui, c'est des fois ça évite qu'on te la fasse à toi. Ouais.
Une des chansons du nouvel album s'appelle Ce qui restera. Un titre raccord avec votre film, Je ne sais pas si c'est tout le monde, dont on en a parlé. Savoir ce qu'il restera de nos vies une fois qu'on sera parti, c'est une question qui vous hante.
C'est surtout l'idée, qu'est-ce qui nous reste effectivement, à la fin, parce que ça me marque souvent que les choses qui s'inscrivent en nous, c'est pas forcément a priori, les plus grandes dates ou le jour où on s'est marié, tout ça, c'est aussi des impressions, des sensations un peu abstraites. Et quand on écrit des chansons, bah, on travaille beaucoup sur ces zones-là. Donc, c'est une chanson qui parle de ça. Oui.
Ce qui restera.
À la fin, il restera là, sur la patinoire. Un enfant serrant son bras, l'ambulance dans le soir, la fièvre en s'endormant.
Et Baroque,
Vincent Delerme, s'il devait rester une seule chanson pour vous, hein, qui a une émotion particulière, ce serait laquelle ?
Des chansons des autres. Hein.
Oui, des chansons des autres, oui.
Je dirais Mon enfance de Barbara, c'est une chanson assez très déchirante et très mélancolique, mais souvent les chansons qui nous font beaucoup d'effet, elles sont assez mélancoliques.
Enfin, il paraît que sous la douche, vous chantez C'est la Ouate.
Ah, j'aime bien C'est la Ouate. Bah, j'adore les tubes de cette époque-là, ils sont très originaux. C'est la Ouate, c'est trop bizarre d'écrire un texte comme ça, quoi. Le mec qui commence un texte de toutes les matières, c'est la Ouate qu'elle préfère, et que ça fasse un tube énorme. Dans cette époque-là, il y a eu beaucoup de chansons un peu comme ça.
Europe 1, 16h-18h, L'équipée sauvage.
Et oui, jusqu'à 18h sur Europe 1, nous sommes avec Mathieu Noël, son acolyte toujours présente, Eva Rock, un invité, ici Bilal Hassani, et puis un journaliste en compétition. C'est au tour maintenant d'Anissé Mbida de nous présenter son sujet.
Anissé, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'intelligence artificielle qui va nous aider à compter enfin les manifestants ?
L'idée, c'est d'en finir avec toutes les polémiques qu'il y a aujourd'hui, hein, quand il y a la moindre manifestation. L'idée, c'est de compter physiquement, d'avoir ne plus faire d'estimation, mais d'avoir un comptage extrêmement précis des personnes présentes. Alors, comment ça va fonctionner ? On va soit utiliser des hélicoptères, des drones ou des avions pour faire des photos
ça va pas coûter
aériennes.
Cher.
Non, mais il y a souvent des manifestations qui sont surveillées par la police. On fait des photos d'ensemble. Et de cette photo-là, on va être capable de compter. Enfin, c'est une intelligence artificielle qui va le faire, parce que vous imaginez, de faire
c'est
quand même extrêmement
si
compliqué. Et donc, il va compter chaque personne une par une. Là où ça va très loin, ce système, c'est si une personne est masquée par un arbre ou masquée par une banderole, le système est capable d'extrapoler en fonction des gens qui sont à côté, en fonction de la topologie, etc.
Ça a déjà été testé quelque part, votre truc?
Alors, ça a été testé quelque part sur les images, sur la manifestation à Barcelone. Vous savez qu'il y a des manifestations en Catalogne aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été fait sur celles qui sont lieu actuellement, mais sur la principale manifestation qui avait lieu en 2012. À l'époque, on parlait d'une affluence record, hein, 2 millions de personnes selon les organisateurs, 1,5 million selon la police. Et vous savez combien le logiciel on a compté réellement?
La vérité était entre les deux, non?
Non,
elle était plus basse encore.
500 000 personnes, 4 fois moins que les estimations. Donc, ça montre le décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les estimations qui sont faites soit par la police, soit par les organisateurs, et ce que peut compter ce logiciel. Alors là où ça va, c'est très intéressant, c'est que ça ne va pas être utilisé uniquement pour les manifestations, c'est aussi utilisé pour tous les mouvements de foule. Par exemple, ça va être utilisé au Qatar pour la Coupe du Monde de football, parce que quand il faut planifier des secours, on a besoin de savoir, d'estimer à peu près la foule, le nombre de personnes qu'il y a. Donc l'affluence aux abords des stades va être surveillée par des hélicoptères, des drones, je ne sais quel appareil, ou même des caméras qui sont à distance. On saura exactement le nombre de personnes qui sont présentes sur un lieu, et ça va permettre comme ça de dimensionner les secours. Donc pour les journalistes, ça va être plus intéressant, pour les organisateurs également, mais aussi pour les secours.
Mais aujourd'hui, comment on calcule ? C'est vrai que ça paraît compliqué.
Il y a plusieurs méthodes, et la première méthode, c'est de doigts mouillés, hein, tout simplement. On estime, il y a 200 000 personnes.
Mais c'est pas comme ça qu'ils font quand même.
Si, ça se fait. D'autres
font,
utilisent les personnes qui se sont inscrites à la manifestation. Donc ils regardent, il y a tant de personnes qui sont inscrites, donc ça fera le nombre de présents.
On compte en mètres carrés aussi. Hein.
Voilà, et sinon, les journalistes ont commencé à dire, il y en a marre un peu de cette course. Donc les journalistes, plusieurs chaînes de télé et plusieurs journaux se sont mis d'accord pour un système de comptage. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde sur une zone 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, on compte le nombre de personnes, et puis après, on extrapole sur toute la distance de la manifestation. Donc évidemment, ça produit des erreurs avec des rapports de 1 à 2 ou de 3 à 4. C'est pour ça que c'est intéressant que cette estimation soit faite par des indépendants, parce que quand on demande de compter et que les gens sont un peu partisans, et bien évidemment, on a juste parfois mal. Et là, on pourra le faire, enfin, on va pouvoir compter précisément tête par tête, de façon même automatique. Hein. C'est-à-dire que si c'est un hélicoptère qui passe, il pourra, en analysant l'image, dire « il y a tant de personnes ».
Quand Bilal Hassani fera le Stade de France, dans peu de temps, on saura exactement si vous avez 80 000 personnes ou 79 000 personnes.
Sauf qu'eux, ils auront payé, donc Sadietri le saura exactement.
Europe 1, 16h-18h, L'équipe est sauvage.
17h41, équipée sauvage se poursuit et toujours en compagnie de Mathieu Noël et Varrock. Ici le dessinateur Johan Sfar qui était invité cette semaine pour nous parler du deuxième, du neuvième tome de sa série de BD à succès, Le Chat du Rabbin. Et puis, bien sûr, la chronique de l'un de nos correspondants, ici à Europe 1, pour parler de son sujet.
La Coupe du Monde de boucherie. And now, ladies and gentlemen, the World's Butchers Challenge. Vous ne connaissez pas ? C'est pourtant un rendez-vous international de haut niveau où les compétiteurs arrivent de toute la planète avec un objectif, décrocher le titre de champion du monde de la boucherie. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Bordeaux. Alors dès qu'il s'agit de bouffe, les Français sont de la partie, vous l'imaginez bien. Ce mondial se déroulera dans un an à Sacramento, en Californie. Mais d'ores et déjà, nos Français s'entraînent dur. Parmi eux, Gauthier Détré, que vous avez rencontré, Stéphane.
Absolument, et c'est dans son atelier que nous sommes allés le voir. Là. Vous avez noté, Mathieu.
Vous n'êtes pas dans l'émission de Christophe Ondelat, là. Qu'est-ce que ce son que vous nous avez fait écouter, là, c'est inquiétant.
On se croirait à côté d'Eva quand elle prépare l'émission et les fiches pour les questions des invités. Ça fait à peu près la même ambiance. Un long couteau, une scie à la main. Gauthier découpe donc de belles tranches de bœuf, prépare de magnifiques escalopes avec une dextérité affirmée, une technique éprouvée à la mesure de la passion que ce jeune homme nourrit pour ce métier de boucher. Il a décidé de l'exercer dès l'âge de 6 ans et donc il va participer au championnat du monde de boucherie à Sacramento dans un an. Il a été sélectionné en équipe de France catégorie apprenti. Sacramento, vous le disiez, c'est quand même un peu le Graal et d'ici là, eh bien, il s'entraîne tous les jours.
Alors déjà, on a donc un rhum steak de bœuf avec un demi-agneau, une longe de porc et de poulet. Et avec ça, il faut réaliser le plus de préparation bouchère possible en 2h30. Le but, c'est d'être créatif et original. Par exemple, les bûchettes d'agneau aux amandes et aux girolles, voilà, après, c'est une surprise, hein, je vous dis pas le reste. Même le soir, hein, je rentre à la maison, voilà, sur mon cahier, j'essaie d'inventer des recettes, des nouvelles préparations, des nouveaux décors. C'est un rêve d'enfant de devenir boucher, donc aujourd'hui, j'ai accompli mon rêve.
Combien il y a d'équipes sur ce championnat du monde ?
On est 15 équipes. Moi, je vise le top, donc de toute façon, moi, quand je me lance dans quelque chose, c'est pour gagner. Il y a un trophée, il y a une réputation aussi, hein, donc bien sûr, j'en rêve la nuit.
Du Mathieu Noël dans le texte, quand je m'engage, c'est pour atteindre le meilleur, décrocher le titre. On vous reconnaît bien. Donc l'enthousiasme de Gauthier et des supporters. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est le patron de la boucherie où il travaille, c'est Pascal Morera. Il soutient à 200% ce jeune homme dans sa préparation.
Déjà, on était supporters du rugby, maintenant on est supporters de Gauthier. C'est quelqu'un qui dort boucherie, qui vit boucherie pour les préparations du concours. C'est vraiment du parfait, de l'excellence. Il faut vraiment aller chercher des idées, chercher des recettes, des méthodes de travail au-dessus de ce qu'on fait nous au quotidien, quoi. Il m'a rapporté un peu de savoir-faire parce que forcément on n'a pas la même âge. Moi j'ai une formation qui est quand même depuis 30 ans. Il travaille ses recettes ici. Nous on en fait profiter nos clients, on les met à la vente. Ça tombe bien parce que ici nous on ne travaille que de l'excellence. Sinon on ne travaille pas, c'est pas la peine.
On dirait encore la devise de Mathieu Noël. C'est incroyable les parallèles dans ce reportage, c'est fou. Sacramento donc dans un an pour, vous disiez comment déjà Mathieu ? Je ne me souviens plus.
The World's Butchers Challenge.
Magnifique. Avec évidemment, parmi les supporters, l'équipe de d'Europe 1, on va être aux côtés de...
Mais Stéphane, je me suis laissé dire que vous aviez le bras long quand même dans la région de Bordeaux. Vous pourriez pas faire en sorte que Gauthier vienne s'entraîner ici, par exemple,
en lui mettre
un petit
peu.
Établi à côté de nous en studio. Et voilà, on y serait.
L'invitation est lancée, à condition, je pense, qu'Eva lui file un coup de main, parce qu'elle aussi a une certaine dextérité,
oui.
Un couteau à la main.
Bien sûr.
Voilà. Bien sûr.
Eh bien, on va lui proposer. On lui propose. Prochaine émission en public, on propose à Gauthier de venir.
Ah, super. Très bonne idée. Parfait.
Merci beaucoup Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
17h50 pratiquement, dernière minute en compagnie de Mathieu Noël et Varrock. Catherine Sellac également invitée cette semaine à venir nous parler de son livre « À l'amour, à la vie ». Apparu il y a quelques jours chez Flammarion et dans lequel la journaliste a recueilli les confessions de nombreux artistes.
Accueillons notre invitée d'honneur cet après-midi. Elle a porté pendant 22 ans une émission mythique du service public. Yudeva, Wella, Foileni, Tsolamiku. Ça doit vouloir dire bonjour, Catherine Sellac. Bonjour, Catherine.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Thème Café, ce face-à-face intimiste entre un invité et vous s'est arrêté pour des raisons encore obscures à ce jour en 2018. Mais vous avez gardé le goût de l'autre, du témoignage. Vous publiez À l'amour, à la vie chez Flammarion. 14 témoignages d'hommes et femmes célèbres sur leur rapport à l'amour, au sentiment amoureux. Il y a Fabie Flamand, Sandrine Bonner, Philippe Geluck, Mimi Mathy, Elena Noguera. Est-ce que tous vous ont dit banco tout de suite ou ça a été un petit peu de la négo quand même ?
Non, ça n'a pas été vraiment de la négociation parce que ce sont des personnes que je connais depuis déjà longtemps grâce évidemment à Thé au Café. Je les avais rencontrées à plusieurs reprises. On a tissé des liens ensemble et tous, ils ont répondu oui. Alors, effectivement, ça a demandé peut-être quelques verres de vin blanc. Pour,
voilà. Voilà, c'est ça le secret.
Ça peut aider.
Là, voilà
ça
la peut méthode, aider. C'est là.
Je vous en dirai plus.
Alors, je vais vous dire ma première réaction à la lecture. Un peu la même d'ailleurs qu'on avait à l'époque de Thé ou Café. Comment des stars, qui d'habitude sont très jalouses de leur vie privée, se livrent à vous ? Et on a l'impression, rien qu'à vous, Catherine Sellac, qu'il y a un truc magique. Alors, vous venez de vendre la mèche, c'est le vin blanc. Mais ça fait partie
voilà,
de la méthode Sellac.
C'est pas
pour
seulement
se
le vin blanc, c'est vrai, je pense que tout simplement, j'ai peut-être une faculté voilà, d'écouter, de ne pas poser des questions fleuves. Vous savez, aujourd'hui, on pose beaucoup de questions comme ça, qui sont très, très, très longues, et on n'écoute pas les réponses. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me cacher derrière. C'est un peu la tenue de camouflage en fait. Moi je pose des questions et puis j'attends les réponses. Moi j'aime pas du tout parler de moi et je suis désolée parce que vous allez voir je vais pas avoir grand chose en définitive parce que je suis pas une très très bonne cliente. Moi je préfère poser des questions comme vous le faites. Alors donc j'ai un joli carnet d'adresses, mais c'est pas seulement ça, c'est simplement de la confiance. Je crois qu'en 22 ans on instaure une confiance avec des personnalités qui acceptent effectivement de se dévoiler. Et puis pour un livre, on ne se rend pas toujours compte
De ce qu'on dit.
Que, voilà, exactement. Oui.
Alors, quand il y a la caméra,
ça ne veut pas dire que je les ai piégés, bien au contraire, parce que même j'ai dû édulcorer parfois leurs réponses, tellement elles allaient loin dans l'intime. Et ça m'a gênée, et parfois j'ai dû même les protéger.
Comment vous les avez sélectionnés, ces personnalités ? Il y en a 14. C'est ceux, en gros, avec qui ça s'est le mieux passé dans Thé ou Café, où vous avez senti
non,
que...
Non, pas spécialement. Je voulais que ce soit tout d'abord autant d'hommes que de femmes.
Ouais. Hein,
c'est
la parité.
C'est la manière de Lelouch, hein, un homme et une femme. Et puis, je voulais aussi que ce soit un peu intergénérationnel et que chacun ait aussi des histoires très différentes à me raconter. Catherine Lara, elle me parle de... elle est homosensuelle. Mmh. Bon, donc, elle parle à la fois d'hétérosexualité et d'homosexualité. Thomas Dutronc, lui, il raconte une histoire qu'il a eue, qui a duré pendant 20 ans avec une femme qui avait 20 ans de plus. Et puis, il y a aussi toutes ces histoires,
les histoires
au
sont
long
toutes variées.
Cours.
Et il y a des histoires un peu plus tristes aussi, on en parlera notamment sur 100 000 bonheurs, des expériences, l'amour toxique. Mmh. Avec elle, les plus grandes stars n'hésitent pas à parler d'amour, de leurs amours, dans À l'amour, à la vie, disponible chez Flammarion. Catherine Sellac est notre invitée.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Vous avez confié dans une interview, Catherine, avoir trois addictions dans la vie. Le bon vin, le théâtre et les séries. Vous êtes toujours très série en ce moment ?
Je suis toujours très série et je suis tout... toujours
aussi tout le reste, c'est-à-dire du vin pendant la série, du vin devant Netflix. Alors justement, selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix ou la plateforme de VOD à laquelle on est abonné, le temps de choisir ou de se mettre d'accord avec son conjoint, le temps de se mettre d'accord aussi sur le verre de vin qu'on va boire avec. Pour gagner 17 minutes, il y a désormais Eva Rock, 17 minutes de gagner. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir ?
Eh bien, on va rester sur Netflix. C'est ce que je vous propose. C'est une série, mais une série documentaire choc qui a été mise en ligne il y a quelques jours. Une série qui me hante. Je le concède volontiers. Ça s'appelle Vivre sans papier. Le documentaire suit le quotidien de 8 familles d'immigrés qui vivent illégalement aux États-Unis. Ils sont venus du Honduras, du Mexique, d'Israël. Ils se sont installés aux États-Unis soit depuis des années, soit plus récemment. Mais tous sont confrontés à la politique migratoire qui a radicalement changé au lendemain de l'élection de Trump, dont la position est très claire en la matière. Zéro tolérance. Alejandra, par exemple, elle a quitté le Mexique. C'était en 1998. Elle est mariée à un militaire américain avec qui elle a 2 filles. Elle a construit toute sa vie en terre américaine et pourtant, dans 24 heures, elle va devoir repartir au Mexique, expulsée comme une criminelle.
C'est tellement déprimant de mettre 21 années de sa vie dans 2 valises. Je voudrais pouvoir y mettre mon mari, mes filles, ma maison, mon chien. Mais 21 années de vie, ça ne tient pas dans 2 valises.
Un vrai déchirement pour Alejandra, d'autant plus qu'elle va partir avec sa fille cadette, mais que son aîné va rester avec son père aux États-Unis. Alors vous le verrez, sur les 8 familles, chaque situation est absolument insupportable, c'est révoltant, c'est incompréhensible, surtout que ce sont souvent les enfants qui en payent les frais, ils sont tiraillés, ils sont inquiets, les parents sont apeurés. Immigrer a souvent été une planche de salut pour eux, parce qu'ils ont fui un pays qui était en guerre, ils ont fui les gangs, ils ont fui la violence, et aujourd'hui ils demandent des papiers, rien de plus, des papiers pour pouvoir vivre, eux qui payent des impôts. Le père Dawa, il est mauritanien, il est en centre de détention depuis des mois après le rejet de sa demande d'asile. Awa, elle, elle est jeune étudiante et elle pleure chaque jour son absence.
Vous pouvez regarder un documentaire et trouver ça triste. Mais au bout du compte, ce n'est qu'un documentaire. Vous pouvez éteindre votre téléviseur et retourner à votre vie.
C'est un documentaire bouleversant qui est produit par Selena Gomez. Ça fait deux fois qu'elle produit un documentaire pour Netflix. C'est un documentaire et pas une série, donc je peux vous dire en partie la fin de ces 8 histoires. Eh bien, ça finit rarement très bien, voire ça finit souvent très mal.
Est-ce que vous croyez que ce n'est pas un documentaire qui pourrait aussi exister en France,
hein? Oui, sur le même sujet. Exactement, je pense que ça peut exister en France parce que les situations sont exactement les mêmes. À une différence près, c'est que la politique migratoire aux États-Unis est beaucoup plus sévère que celle en France et je pense qu'on pourrait avoir au moins des acceptations par nombre de certains dossiers, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis aujourd'hui.
Selena Gomez, c'est l'ancienne de Disney ?
Exactement.
Ah oui, comme quoi, elle s'est bien reconvertie. Elle a bien rebondi, comme dirait Mathieu Charrier. La différence aussi par rapport à la politique américaine, c'est que, à ma connaissance en tout cas, Emmanuel Macron n'a pas prévu de construire un mur et une fosse avec des crocodiles, comme il a annoncé l'autre jour Donald Trump, à la frontière du Mexique. 17 minutes de gagner. Merci qui ? Merci Eva Rock.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Ainsi s'achèvent ces deux heures de découverte et de folie douce que nous offre chaque Jean-Mathieu Noël. Rendez-vous dès demain, 16h sur Europe 1, avec Patrice Lecomte, le cinéaste. Invité également cette semaine de Jolie Plume, l'un des maîtres du thriller Maxime Chattam. Il y aura aussi Christophe Onodibio. Et puis Olivia Ruiz, hein, chanteuse, mais qui tente sa chance sur le petit écran. Elle nous en parlera. À suivre, deux heures d'actu, c'est le grand journal du soir emmené par Wendy Bouchard. Bonne fin de journée avec nous.